Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, soyez les bienvenus. L'Intégral Foot est là, comme tous les samedis soirs, jusqu'à 21h, avec le grand, l'unique, l'immense coach Courbis à mes côtés pendant 2h. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Pas de trêve pour toi, hein. Pas de Suède, pas de Corse. Non, t'es bien là, fidèle au rendez-vous.
Ben oui, t'inquiète.
Bon, t'es bien là avec moi. On a un gros programme en plus jusqu'à 21h. Nos drôles de dames seront là dès 20h. La polémique club qui enfle en Allemagne, je sais pas si tu as vu ça Roland, après son engagement du groupe Red Bull, voilà, ça me plaît
mais
pas.
Bon,
aux fans de foot en Allemagne.
On te laisse jamais tranquille, le mec il est pendant des années à Liverpool, bon, il a un petit peu envie de changer tout de suite, ça fait un massacre.
Voilà, personne ne supporte ça. Bon, on en parlera avec Paulo Breitner. Un grand dossier arbitrage, soyez là à 19h30, Amaury Delerue, le manager instructeur des arbitres de Ligue 1 sera avec nous. C'est le moment, on a un peu de temps justement pour traiter ce genre d'actualité. Quel est le fonctionnement de l'arbitrage de haut niveau en France? Comment améliorer la relation entre les arbitres et les clubs? Quelle est la stratégie fédérale? On se posera toutes ces questions avec Amaury Delerue. Donc soyez là, 19h30, le rendez-vous. Mais tout de suite, on parle de l'équipe de France et même absent, Mbappé monopolise l'attention. Entre deux matchs de Ligue des Nations, les Bleus sont réunis à Clairefontaine. Je rappelle jeudi la victoire face à Israël en Hongrie, 4-1. Lundi, déplacement en Belgique pour donc essayer de confirmer ce beau succès de cette semaine. Aujourd'hui, entraînement et conférence de presse au programme. Matteo Guendouzi et Wesley Fofana se sont présentés. Jeannot Rességui a assisté à tout cela. Salut Jeannot.
Bonsoir Benoît, salut coach. Bonsoir.
Salut Jeannot, en direct du stade Pibaro à Clairefontaine.
Exactement, je les ai là à quelques mètres de moi. Ils sont en train de faire une opposition là sur un quart de terrain au bas des tribunes où se trouvent à peu près, on va dire 250-300 supporters qui ont été invités par la fédération de football avec notamment des invités des partenaires. Séance d'entraînement à laquelle ne participent pas Tchouaméni ni Maignan. Tous les deux sont venus pour faire la signature des autographes. Ça c'est la tradition de l'entraînement en public. Et ensuite ils étaient tous les deux en basket. Ils sont repartis. Alors il y en a un qui est parti avec un des kinés, c'est Tchouaméni en voiture pour aller jusqu'au château et donc travailler en salle, ménager par rapport à un coup reçu. Il était sorti à la 80e minute à Budapest contre Israël, mais pas de souci particulier quant à sa possible participation au match en Belgique. Et Maignan, pareil, lui, il est allé faire un footing avec un des kinés et il n'y avait pas de séance spécifique de gardien de programmé, donc du coup, lui aussi ménager. Là, on a droit à une opposition avec des chasubles qui ont été distribués par les deux autres gardiens, Samba et Areola, qui participent d'ailleurs au jeu, mais quand même distribués, on va dire, habilement, parce que, par exemple, Samba, qui est en orange, a donné les chasubles à Koundé et Badé pour jouer en défense. Sur le côté, à droite, il y a Klos, à gauche, il y a Théo Hernandez, et au milieu de terrain, il y a Guendouzi, avec, par exemple, Nkunku, et Marcus Thuram, qui s'entraîne normalement dans le rôle d'attaquant. Opposition assez disputée, à laquelle n'ont pas participé trois joueurs, Kamavinga, Konaté et Dembélé, qui sont restés là pendant la première mi-temps de l'opposition tranquillement assis dans le rond central avant de finalement quitter le terrain de Pibaro au moment où il y a eu quelques gouttes de pluie. Ils sont repartis du côté du château, pardon. On est à J+2, hein, donc tout ça est un petit peu normal. Bon. Demain ils partent pour la Belgique et ensuite ce sera le match, le quatrième match de la Ligue des Nations au stade du Roi Baudouin lundi soir.
Roland, tu vois, c'est la magie des RMC. On est quand même la seule radio en France qui vous emmène au bord du terrain des Bleus de l'équipe de France pour un entraînement. Et Jeannot commente le match d'entraînement comme un match d'équipe de France.
Mais c'est magnifique.
C'est beau.
C'est magnifique.
On a les chasubles, le jeu et tout. Qui est
parce
fort,
qu'en plus, sans qu'on a besoin de lui poser des questions,
il
nous répond.
Personne ne vous emmène aussi près des Bleus. Détails. C'est ça. Bravo, Jeannot. Franchement, au moins, on a tous les détails. Et là, c'est intéressant. Juste un mot sur les conférences de presse, Jeannot. Parce que forcément, le dossier Mbappé a été évoqué. Ça a été une des premières questions posé aux deux joueurs qui étaient présents.
Alors très honnêtement, il faut dire qu'on n'était quand même pas nombreux à Clairefontaine aujourd'hui dans l'auditorium. On va dire à peu près un journaliste ou deux par média qui ont l'habitude de suivre l'équipe de France.
Même la presse se désintéresse alors, c'est fou.
Non, mais ça a déjà été le cas. Non, là, faut pas non plus généraliser ni transformer ce que je dis là. Simplement, le fait que voilà, il y avait deux joueurs en conférence de presse et c'est plus facile aussi pour nous pour leur poser des questions parce que là, on a droit à un peu plus du micro que d'habitude. Donc, on avait Wesley Fofana de retour en équipe de France qui n'a qu'une seule sélection. Hein. C'était en juin 2023 contre Gibraltar qui avait eu la rupture des ligaments croisés derrière, appelé en septembre. Mais qui finalement n'était pas venu parce que il avait un petit manque de compétition et c'était en accord avec Didier Deschamps. Et donc là, normalement, on pense que demain il aura une chance d'être peut-être titulaire pour le match contre la Belgique puisqu'il y aura du turnover. Donc lui, on lui a posé la question bien évidemment sur Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il en pensait. Il dit mais attendez, laissez-le vivre, c'est sa vie privée, il est en repos, c'est pas parce qu'on jouait et qu'il était à Stockholm qu'on doit faire attention à tous ses faits et gestes, mais ça reste quand même Kylian Mbappé, voilà, donc du coup, pas simple pour lui de vivre ce genre de situation, dans le sens où il est épié à chacune de ses sorties. En revanche, Matteo Guendouzi, qui lui aussi était en conférence de presse, a insisté un petit peu plus sur la relation entre les médias et Kylian Mbappé, et le fait que, sous-entendu, on en fait un peu trop. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs, Matteo Guendouzi, ouais. Sur ce sujet.
Nous, il y a aucun doute par rapport à Kylian. On l'a eu au téléphone encore avant le match. On l'a par message. C'est quelqu'un qui est attaché à nous, attaché à l'équipe de France. C'est un joueur qui aime son pays. C'est un joueur qui aime cette équipe et qui continuera à nous aider à la ramener au plus haut niveau et j'espère le plus haut possible. Mais en tout cas, vraiment, faut arrêter de trop en parler parce que vous vivez de ça aussi de parler de lui tous les jours. Après, il a des jours de repos. Il fait ce que bon lui semble pendant ses jours de repos. Mais en tout cas, faut vraiment pas se poser des questions avec l'attachement de Kylian avec l'équipe de France parce que cette question ne devrait même pas se poser de par ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il continue à faire et de ce qu'il fera encore dans le futur pour nous.
Voilà, c'est donc bel et bien le capitaine de l'équipe de France. Il a le soutien de tous ses partenaires. Merci. Et sur le sujet, pas la peine d'insister dans le sens où il fait ce qu'il veut. On rappelle que Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni en septembre dernier, qui n'avaient pas participé au rassemblement parce qu'ils étaient ménagés ou trop justes, parce qu'ils relevaient de blessures, qui avaient eu droit aussi dans le cadre de leur vie privée à une escapade à l'étranger. Donc voilà, pour l'équipe de France et le vestiaire, il n'y a pas de débat.
Merci Jeannot, tu restes avec nous. Bon, au moins,
la séance est terminée à l'instant même.
Ah,
hein.
Bah voilà.
Ils viennent de quitter le terrain.
Et qui a gagné, les oranges ou les jaunes alors
un ballon. J'ai pas compté les buts là, je suis désolé.
Alors.
Mais ils sont allés en tout cas saluer le public, ce qui est plutôt sympa.
Ouais, ça c'est cool.
Et où il y avait d'ailleurs beaucoup d'enfants. Mais bon, normal, c'est samedi aujourd'hui.
Bon.
On est sur un week-end et ouvrir un entraînement au public, même si c'est sur invitation un week-end, ça montre aussi qu'on a la possibilité de faire plaisir à des gens fans de l'équipe de
c'est
France.
C'est sûr. Alors on le disait pendant ce temps-là, Kylian Mbappé a fait deux jours en Suède. Désormais, il est en Corse pour continuer sa mini-semaine de repos. C'est autorisé par le Real Madrid. Il a repris de l'entraînement lundi. Roland, est-ce que d'après toi, toute cette histoire, déjà le fait qu'il loupe le rassemblement alors qu'il n'est pas vraiment blessé puisqu'il a joué en club après l'annonce de la sélection de Didier Deschamps, et ensuite qu'il soit aperçu en boîte de nuit en Suède le soir du match de l'équipe de France, est-ce que toute cette affaire aura des conséquences sur l'équipe de France d'après toi, Roland?
Sincèrement, je vois pas pourquoi. Dans le sens que il y a des accords qui ont été trouvés. C'est pas qu'il a fait le mur et qu'il s'est échappé. Donc, il a envie de
couvrir. Il y a rien de répréhensible.
C'est
juste une question d'image, de communication.
D'accord. Il a envie. Après, il y a sortir et sortir. On ne sait pas à quelle heure il est rentré. Si tu vas en boîte pour faire un tour, boire un coup avec une amie et que, allez, tu minuit et demi, une heure, tu rentres, tu coupes. Si tu as envie de profiter un petit peu de cette coupure, pour souffler un peu, parce que des choses, il en a beaucoup, des problèmes, il en a beaucoup, dans son cerveau, il y en a beaucoup de choses, donc il faut impérativement qu'il fasse le point. Mais on ne sait toujours pas ce qu'on va avoir dans les semaines et les mois à venir. Et la question que moi, je me pose, et je n'ai pas la réponse, est-ce que le Mbappé irrésistible que l'on a pu connaître il y a 2-3 ans, est-ce qu'on va le retrouver? Ben, j'ai un grand point d'interrogation sans avoir la réponse. Alors, évidemment, un bon attaquant qui marque un but tous les deux matchs ou deux buts tous les trois matchs, ok. Mais par exemple, se retrouver au Real Madrid, est-ce que c'était le bon moment d'y aller? J'en suis pas sûr. Est-ce que tu vas dans un club où tu es le meilleur joueur de ce club-là? J'en suis pas sûr non plus. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais bon, pour en revenir à notre équipe de France, le match de lundi, la question que j'ai pas eu le temps de poser à Jeannot, et j'aimerais avoir cette réponse.
Je suis là.
Quand il y a deux coupures, une coupure de deux semaines. Mais pourquoi les deux matchs à jouer sont aussi rapprochés?
Ah mais ça c'est l'éternelle question. Pourquoi tu joues
c'est le calendrier de l'UEFA.
Oui.
Ah ben oui, d'accord. Mais
bon. C'est le calendrier de l'UEFA. Hein. C'est malheureux. Tu as raison de le préciser.
C'est le calendrier des idiots.
Donc, des idiots. C'est toi qui le dis. Quand tu cales un match le jeudi, ben soit t'as un match le lundi, soit tu peux avoir aussi un match le dimanche, ce qui sera le cas lors du rassemblement de novembre pour finir ces éliminatoires de Ligue des Nations. Non, voilà, c'est simplement une question de calendrier.
Qui est 8 jours d'écart
mis en place par l'UEFA
entre les deux matchs, mais un jour de plus quand même. Tu te rends compte? Tu termines un match. Je me mets à la place du sélectionneur et des sélectionneurs. Tu termines un match presque le lendemain. Qui est déjà l'avant-veille du match à venir. Ouais. Mais putain, c'est quand même
l'autre,
pénible.
L'autre point de vue, c'est de se dire ils retournent plus vite après dans leur club.
Oui, mais ils retournent plus vite. Moi, ce que je regarde, ce que je constate. Et alors, je te parle même pas de ceux qui ont les voyages à faire pour aller au Brésil ou en Argentine ou quoi. Qu'après, il y ait plus de blessés que ce qu'on aimerait qu'il y ait. Eh ben, c'est le contraire, moi, qui m'étonnerait. Je trouve qu'il est logique, parce que, c'est sûr que les joueurs, ils vont pas jouer quatre mi-temps des deux matchs. Mais ça fait rien. La récupération, celui qui déjà en fait trois de mi-temps en trois jours d'intervalle, dans une période où tu joues tous les trois jours dans ton club avec la Coupe d'Europe pour certains de nos joueurs, ben je dis que ça fait beaucoup et même je peux rajouter ça fait beaucoup trop.
Bon, on remercie Jeannot qui revient à 20h. Hein, tu nous
c'est la raison pour laquelle
à partir de 20h.
C'est la raison pour laquelle, juste pour préciser. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, c'est un vrai casse-tête pour les sélectionneurs. Ça sera donc un casse-tête aussi pour Didier Deschamps, de savoir s'il fera, comme en septembre, 8 modifications entre les deux matchs, où il en fera peut-être un peu moins, puisqu'en septembre, ils n'avaient pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes et qu'il en avait tenu compte. Mais il y a certains joueurs qui relèvent de blessures. Je pense à Kamavinga, des joueurs qui ont moins de temps de jeu ou moins de rythme. Je pense à Nkunku. Est-ce que ces joueurs-là vont être encore alignés contre la Belgique? Est-ce qu'il va modifier son schéma tactique? Apparemment oui, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure à 20h, et de revenir à un 4-3-3 comme ça avait été le cas lors du match aller contre la Belgique à Lyon. Mais c'est un vrai casse-tête de toute façon pour Didier Deschamps, pour les sélectionneurs dans ces éliminatoires de la Ligue des Nations.
Bon, merci Jeannot. On essaiera d'ailleurs de se projeter sur lundi à partir de 20h. Quelle équipe sera alignée par Didier Deschamps, voir s'il y aura beaucoup de turnover effectué. Merci Jeannot. À tout à l'heure. Jeannot. 19h14 sur RMC. L'intégral foot jusqu'à 21h. On va accueillir Christopher dans un instant. On rappelle l'angle de notre débat. Est-ce que l'affaire Mbappé aura des conséquences? Avant d'accueillir Christopher, Roland, autre question tout de même. Est-ce que, d'accord, toi tu comprends que ce soit normal, qu'il ait des jours de repos, il fait ce qu'il veut de ses repos, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est compliqué à gérer d'un point de vue de la communication pour Deschamps, une nouvelle fois? Parce que déjà il annonce sa liste le jeudi. Il voit que Mbappé joue le samedi, alors qu'il a dit qu'il avait pris cette décision en accord avec lui. Donc le joueur déjà joue alors qu'il n'est pas en équipe de France et qu'il est capitaine. Et là, de voir que le même soir, le soir du match de l'équipe de France en Hongrie face à Israël, il se retrouve en boîte de nuit dans un autre pays d'Europe. Tu penses qu'en termes de communication, il a rendu service à son coach? C'est quand même dur à gérer pour Deschamps, non?
Non, mais ça, c'est pas facile non plus. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je ne sais pas et personne ne sait les accords qu'il y a pu y avoir dans ce qu'on allait dire et pas dire. Parce que je regarde depuis le début et j'ai l'impression qu'on nous prend pour plus stupide que ce qu'on est. Quand, par exemple, le diagnostic de la blessure de Kylian, c'est 3 semaines tout de suite. Tu sais, mon réflexe, parce que je suis toujours prudent, parce que j'ai peur, non pas des blessures, ça c'est évidemment tout le monde a peur des blessures, mais j'ai peur des rechutes encore plus que des blessures. Et quand j'entends que le diagnostic de la blessure de Kylian Mbappé, c'est 3 semaines, ben, dans le réflexe que j'ai habituellement, j'ai eu l'occasion d'avoir un garçon comme Lucien Leduc à une certaine époque qui rajoutait toujours une semaine au feu vert que donnait le staff médical.
C'est ce que fait le Real,
hein,
c'est la tradition du Real.
Oui, mais là... Ça, c'est pas le cas. Donc là, une semaine après, ils se retrouvaient à Lille.
Ah oui.
Donc là, il y a eu quand même une erreur de communication, si on peut appeler ça comme ça. Donc je pense que...
Donc Deschamps s'est fait berner par le Real, c'est ce que tu es en train de dire.
Et tout le monde. Tout le monde. Oui. Donc, et Deschamps, il n'est pas plus stupide que tout le monde. Il écoute, il a 2 oreilles, il n'en a pas 3.
Oui, mais c'est lui qui subit la situation.
Qui subit
parce
quoi
que son parce que son capitaine, il est en train de jouer des matchs avec son club, que là, il n'est pas en rassemblement, alors que normalement, il doit être le leader du groupe, et qu'il se retrouve en boîte de nuit.
Dans une discussion, il a peut-être eu, et ça, il ne nous l'a pas dit, Didier, il a peut-être eu une confidence de Mbappé en disant, bon, allez, on va faire ça, 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 ça et ça. On a essayé de choisir de bonnes solutions. Il n'y en a pas. On va trouver la moins mauvaise. Et bon, je vais peut-être essayer de jouer une mi-temps dans le match contre Villarreal. Eh ben, il a joué un quart d'heure de plus que la mi-temps. Mmh. Et après, ben, Lille à Lille. Bah, c'était certainement d'accord avec Carlo Ancelotti qui ne démarrerait pas le match. Moi, je pensais qu'il allait faire le voyage à Lille avec prudence pour faire un petit bisou à son frère. Mais je pensais jamais qu'il allait jouer autant. Et derrière ça, eh ben, il y a une coupure. Et dans cette coupure, oui, mais il est allé à Stockholm, il est allé en Corse, mais il s'est mis d'accord. Il a peut-être besoin de souffler aussi,
ouais.
Parce que depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, les problèmes qu'il a à régler, mais oui, je peux pas te contrarier, et puis j'en ai pas envie. Maintenant, que Mbappé ait pris des décisions qui n'ont pas été tellement extraordinaires depuis plusieurs mois, depuis deux ou trois ans. Déjà, je t'en donne une. Elle est peut-être stupide, mais tant pis, c'est la mienne. Mais déjà, est-ce que c'est pas une connerie d'être allé au Real Madrid au moment où il va au Real Madrid? Il va au Real Madrid quand, bon, son niveau a quand même un petit peu baissé. Donc, il va au Real Madrid pour augmenter les chances du Ballon d'Or. Il va dans un endroit où il va y avoir juste un Ballon d'Or qui va lui passer.
Voilà, le Ballon d'Or 2024 sera là, Vinicius.
Et qui s'appelle Vinicius. Il va au Real Madrid pour gagner la Champions League alors qu'ils en ont déjà gagné 15. Donc, bon, ok, c'est pas une fabrique, obligatoirement, il ne va pas gagner la Champions League au mois de mai. Donc, ce sont toutes des décisions. Partir au Real Madrid dans l'intersaison où il y a le championnat d'Europe, les Jeux Olympiques, il reste au Paris Saint-Germain un an de plus ou un an de moins. Mais il aurait pu jouer les Jeux Olympiques parce que le Paris Saint-Germain ne lui aurait pas refusé. Donc il y a plein de choses que je ne comprends pas. Tu dois bien comprendre que savoir, y compris même le nom du nightclub qui a reçu Kylian Mbappé à Stockholm, si tu savais comme je m'en fous, tu ne t'imagines même pas.
Écoute, ça provoque diverses réactions, notamment sur le fait que ce n'est pas un joueur lambda, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Tiens, accueillons Christopher qui a composé le 32-16 pour en discuter avec nous. Salut Christopher.
Salut les gars, Christopher. Bon,
bon, comment toi tu réagis à cette histoire? Roland se dit qu'il y a un accord et que finalement il a quelques jours de repos accordés par son club, donc il fait bien ce qu'il veut de son temps libre. Comment tu réagis toi en tant que supporter de l'équipe de France?
Moi, je trouve que c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est quelqu'un qui a demandé des responsabilités depuis tout jeune, qui s'est mis en avant depuis tout jeune. C'est l'idole des plus petits et des plus jeunes. Aujourd'hui, c'est un manque de respect pour l'équipe de France, pour son club, même le Real Madrid, parce que je pense que le Real Madrid, au jour d'aujourd'hui, n'a pas forcément envie d'être mêlé dans des choses comme ça, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un manque de respect global envers même la compétition qu'il devait jouer, quoi.
La Ligue des Nations.
Ouais. Ouais, exactement. C'est, il choisit ses matchs et je pense que, en fait.
Oh bah, excuse-moi de te couper. Et donc, il coupe jamais.
Mais il coupe jamais, mais c'est les responsabilités d'un joueur de foot de son calibre aujourd'hui.
De pas couper?
Bah, d'enchaîner les matchs et de.
Mais c'est pas un extraterrestre. Je suis pas là pour le défendre à 100%. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent à moi aussi. Mais le fait de couper quand on voit ce qu'il a fait et ce qu'il a été obligé de faire ou des fois ce qu'il a pas été obligé de faire. Mais bon.
Mais il a voulu tout ça.
Mais est-ce qu'il joue plus qu'un autre surtout?
Mais s'il a voulu, ben il faut bien à un certain moment qu'il répare. Et pour réparer, il faut quand même couper. On peut pas quand même penser que Mbappé, dans les mois à venir, ne va jamais couper 10, 15 ou 3 semaines. Ça ne lui est jamais arrivé depuis je sais pas combien de temps.
Donc on en revient.
Il y a pas de souci, il peut couper. Mais quand on voit des joueurs comme Rodri, quand on voit des joueurs comme Carvajal, qui même en tant que blessés vont rejoindre
la sélection. On en parlera tout à l'heure avec Edgar Rolón.
C'est une question d'image et c'est une question de
c'est ça, c'est là où on est d'accord.
S'il copie sur Rodri, il va peut-être récupérer le même chirurgien.
La blessure des ruptures des ligaments croisés de Rodri, d'ailleurs, qui quelques jours auparavant s'était plaint des cadences infernales et du nombre de matchs trop élevé.
Absolument.
Ouais. Non mais Roland, là où on est d'accord avec Christopher, je pense qu'on est d'accord tous les trois, c'est que c'est un vrai problème de communication en fait. C'est ça l'histoire. Si dès le début on nous avait dit il a besoin de souffler même psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, laissons-le tranquille pour Saint-Semblement et on verra après. Si lui-même avait pris la parole, peut-être que ce serait différent. Mais là c'est la manière dont ça se passe qui interpelle Roland, tu comprends? Et avec comme l'a dit Christopher, c'est un joueur qui prend position sur beaucoup de choses, c'est un joueur qui a réclamé le brassard de capitaine, c'est un joueur qui doit assumer ce rôle de leader parce que désormais Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale. C'est un groupe qui est en construction. Christopher, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, c'est qu'à un moment, là il y a besoin d'un capitaine dans cette équipe, quoi.
Je pense que Griezmann il doit bien rigoler devant son écran en ce moment.
On est d'accord, mais maintenant nous aussi, on est passionné, on veut tout commenter. Eh bien, laissons passer un petit peu cette coupure et on va attendre au tournant Kylian Mbappé, mais ça, il va être attendu au tournant, autant dans les performances de son club, autant de voir si il va pas se blesser, et je touche du bois pour pas lui porter la scoumoule, et voir aussi un petit peu le niveau du nouveau Mbappé, c'est-à-dire l'Mbappé espagnol madrilène. Donc et ça pour le moment, on regarde, on se dit ouais ça va, ok, ouais c'est pas mal. Mais le Mbappé qu'on a connu, le Mbappé irrésistible, pour le moment on ne le retrouve plus.
Bon, Christopher, merci d'avoir été là. Juste parce qu'on en parlera aussi à partir de 20h, est-ce que toi, cette Ligue des Nations, tu la suis tout de même? Est-ce que tu as regardé le match face à Israël? Est-ce que tu regarderas contre la Belgique lundi soir?
Alors, je regarde, mais bon, c'est pas forcément la compétition qui va m'hyper le plus, hein. C'est pour moi des enchaînements de matchs. On disait qu'on joue trop, effectivement, c'est le cas. Après, même si on joue trop, mais je reviens sur Mbappé, il se doit d'être là, même s'il n'est pas sélectionné, quoi.
Bon, merci Christopher, à bientôt sur RMC.
Salut Christopher.
19h24 sur RMC, voilà pour l'équipe de France, on en reparle dès 20h, quel compo justement face à la Belgique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment comment ça se passe dans le groupe, hein, parce que là officiellement Roland nous dit que Guendouzi et Fofana nous ont dit que bon, ça n'avait fait réagir personne, mais là ce serait intéressant quand même de savoir comment ils l'ont vécu, donc cette sortie de Kylian Mbappé pendant le match des Bleus. Dans un instant, on accueille un invité, Roland, le manager instructeur des arbitres de Ligue 1, Amaury Delerue. T'as dû le croiser forcément quand t'étais coach en championnat. Il a dû t'arbitrer.
Quand même.
Monsieur Courbis, on reste courtois, s'il vous plaît.
Oui, mais
cette phrase a dû arriver.
Oui.
Bon, on parle avec lui justement de l'arbitrage cette saison en Ligue 1, de tout le travail qu'il est en train de mettre en place et justement de la façon dont on peut imaginer la suite pour l'arbitrage, pour que les relations s'améliorent, notamment avec certains clubs de Ligue 1. A tout de suite sur RMC, l'Intégral Foot, jusqu'à 21h ce soir.
RMC, Intégral Foot,
Benoît Boutron.
19h30 sur RMC, l'intégral foot jusqu'à 21h avec coach Courbis qui est là, quelques directs, notamment la Ligue des Nations, Roland. Ce match entre la Croatie et l'Écosse, 2-1 pour les Croates face aux
Écossais. Ben oui, après une ouverture du score de l'Écosse, il y a eu l'égalisation et maintenant un but, mais bon, sur l'ensemble du match qu'on est en train de voir, là, c'est quand même logique et mérité.
Est-ce que tu regardes le match des streamers aussi? Parce que ça aussi, c'est en cours. Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. L'équipe de France face à l'Espagne. Il y a 2 ans, les Bleus avaient battu les Espagnols. Ce sont les influenceurs donc sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Les Espagnols avaient perdu 2-0 chez nous. Et là, ils viennent d'ouvrir le score. Donc, on est mené 1-0, Roland.
Ah, ok. Bah.
C'est un conseil réseau social à donner. Comme ça, ça peut arriver très vite.
Non, on va égaliser.
Très bien.
Sur pénalty.
19h30, c'est donc un grand dossier qu'on voulait aborder en cette trêve internationale. On a le temps justement de se poser et de réfléchir à tout ça. L'arbitrage français, l'arbitrage en Ligue 1. Et pour en parler, on est très heureux d'accueillir Amaury Delerue, manager instructeur des arbitres de Ligue 1 depuis le mois de juillet. Il est notre invité. Bonsoir Amaury.
Bonsoir Benoît, merci pour votre invitation. Bonsoir Roland et bonsoir aux auditeurs.
Avec plaisir. Amaury, quelques souvenirs d'avoir arbitré les équipes de Roland en Ligue 1, j'imagine?
Oui, bien sûr, que ce soit du côté de Montpellier ou de l'île de Beauté, on s'est croisés quelques fois effectivement par exemple.
C'est plutôt sympa, il avait un bon mot aussi pour les arbitres?
Toujours avec la verve et le recul que vous lui connaissez actuellement, et c'était la même chose avec nous.
C'est vrai que tu peux constater quand même pas beaucoup de problèmes.
Non, c'est vrai, avec les arbitres, aucun problème. Toujours le bon mot en conférence de presse. Avec les journalistes, aucun problème. C'est vrai, Roland, franchement, bravo.
Non, j'ai pas que des défauts.
Non, c'est vrai. Amaury Delerue, c'est 172 matchs arbitrés en Ligue 1 entre 2012 et 2022. Une finale de Coupe de France en 2020. Et donc, Amaury, merci d'être avec nous parce qu'on est en plein cœur des journées de l'arbitrage. Hein, ça va durer jusqu'au 27 octobre. L'idée, c'est de mettre à l'honneur les arbitres pro et amateurs. Dans le foot, le rugby, le hand et le basket. En France, il y a une hausse de 16% des arbitres amateurs en foot depuis 3 ans. Ça veut dire que l'arbitrage français se porte bien globalement, Amaury ?
Ça veut dire que le travail dans les districts et dans les ligues est effectivement bien fait et que la politique fédérale pour recruter et fidéliser des arbitres dans ces strates-là à de l'avenir, à d'abord du concret et ensuite de l'avenir. On avait souffert hein, du point de vue du recrutement et de la fidélisation des arbitres post-Covid, hein, et puis un travail de fond qui est en train de porter ses fruits maintenant avec à nouveau des arbitres amateurs qui reprennent une licence et qui ont le plaisir d'officier sur les différents terrains de France.
Je le disais, donc vous avez été nommé manager instructeur des arbitres en juillet dernier. Vous avez même vous-même vulgarisé en disant que vous étiez le coach des arbitres. C'est un peu ça, le coach des arbitres de Ligue 1. Michael Landreau a été nommé au même moment, lui, conseiller sportif et porte-parole. Vous êtes tous les deux sous la direction d'Anthony Gauthier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle concrètement? C'est ça, c'est manager les arbitres de Ligue 1, les débriefer, les aider à progresser, recueillir également leur témoignage pour faire avancer la cause des arbitres?
Bah bravo, vous avez tout dit. Question suivante. Non, c'est exactement ça, effectivement. Ben, la 19e équipe du championnat se prépare sérieusement, de manière professionnelle. Et je suis leur coach. Alors le coach, effectivement le manager, c'est aussi le formateur, c'est l'écoute active, c'est l'évaluateur, celui qui fait des choix, c'est celui qui débriefe les performances, les analyses, va chercher les détails, c'est celui qui leur donne la dynamique et qui fait place à leur profilage de personnalité, parce que c'est 19 personnalités différentes et Roland doit savoir de quoi je parle pour manager un groupe avec tant de personnalités différentes, que ce soit dans une équipe ou dans notre équipe d'arbitres, c'est effectivement la même chose. Le but étant que au fur et à mesure des performances de nos arbitres sur tous les terrains de Ligue 1, nous recherchions collectivement évidemment les décisions cohérentes et uniformes, que l'on recherche la ligne technique que le football attend dans nos décisions impactantes et cruciales, et puis que tout simplement nos arbitres se mettent au service du football et du jeu, parce que c'est d'abord la mission numéro une d'un arbitre quand il prend le sifflet.
Roland,
Disons que bon, j'essaie de suivre un petit peu tout ce qui se passe dans le football. J'essaie, tout en restant quand même assez modeste, de voir si je ne trouverai pas quand j'ai encore quelques années à être sur cette planète, avec le football depuis l'âge de 8 ans, ben je ne trouverai pas une petite idée pour aider le football qui m'a beaucoup aidé. Donc ensuite, je vous pose une question. Pour faciliter l'arbitrage, il y aurait peut-être beaucoup de discussions à avoir, mais j'essaie de trouver depuis plusieurs années, et je pense en avoir trouvé, parce que il y a des exemples qui me démontrent que, ben, je ne dis pas que des conneries. Donc, c'est savoir, est-ce que ça faciliterait pas l'arbitrage de rajouter une couleur d'un carton, qui est la couleur orange, voire la possibilité, ce qui n'enlèverait pas pour autant, le rouge. Mais
l'exclusion temporaire.
Je trouve que ça faciliterait l'arbitrage. Il y a des fois des décisions qui sont très compliquées à prendre, mais sortir un joueur sur un deuxième carton jaune et des fois dans la première mi-temps, ce qui fausse le suspense, ce qui fausse le match, s'il n'y a pas d'autre solution, ouais, eh bien on fait avec. Je dis pas que il y a des solutions qui sont bonnes. Il y a des fois, si on n'a pas la bonne, ben il y a une tactique, je peux la transmettre. On essaie de trouver la moins mauvaise. Et ça, je trouve que ça manque, et pour faciliter l'arbitrage. Ensuite, je réponds à une question qui ne m'a pas été posée là.
Ça, c'est fort.
Mais la question qui ne m'a pas été posée, c'est est-ce que j'ai trouvé, depuis que la VAR est arrivée, un avantage pour notre football? Et si c'est un avantage pour notre football, ça veut dire que la VAR est un avantage pour l'arbitrage et les habitudes de l'arbitrage. Mais au début, j'étais pour à 100%. Là, ça a quand même diminué, parce que je trouve que la VAR ne fait pas seulement qu'aider l'arbitre du centre. Je pensais, moi, bêtement que c'était ça. Mm-hmm. La VAR, pour moi, des fois, décide avant que l'arbitre du centre ait pu voir l'action qui a été décidée. Ça, pour moi, c'est insupportable. Et je suis très content de ne plus être sur un banc, parce que j'aurais eu du mal, dans certains cas, j'aurais eu du mal de garder mon sang-froid.
Alors, deux tiroirs ouverts par Roland, Amaury Delerue. On rappelle que vous êtes manager instructeur des arbitres de Ligue 1, vous êtes en direct avec nous. Le premier, c'est le carton orange. Là, c'est la FIFA qui décide. Mais vous, est-ce que, en tant qu'ancien arbitre et donc désormais manager, vous seriez favorable à cette idée, l'exclusion temporaire en foot?
Alors, plusieurs choses à vous dire. Oui, effectivement, c'est la FIFA et c'est l'IFAB, plus précisément, ouais, qui décide de la modification des lois du jeu. Ce que l'on sait, c'est que dans le football amateur, où c'est mis en place et autorisé, en France, vous l'avez dans certains districts et certaines ligues, c'est plutôt le carton blanc qui fait office d'eux, on voit les effets positifs. Est-ce que cette mise en place au niveau professionnel pourrait marcher? Why not? Pourquoi pas? Les joueurs s'adaptent, ça pourrait amener plus de sérénité. Mais sachons dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, l'arsenal d'un arbitre de haut niveau, c'est un arsenal disciplinaire, c'est-à-dire mettre un deuxième avertissement, puisque c'est l'exemple de Roland, et quelque chose que les arbitres ont en tête pour que ce soit non discutable, que ce soit quelque chose d'incontournable, et que ce soit de la première à la dernière minute de jeu. Donc ils ont cette notion d'importance de ce deuxième avertissement, qu'il ne soit pas galvaudé.
Ça sera une des rares fois, excusez-moi, où je vais vous couper, puisque le nombre de fois, ce qui est tout à fait logique, le nombre de fois que je vois un arbitre ne pas mettre un carton jaune parce qu'il s'est aperçu que c'est le deuxième. Combien de fois que je vois, oh merde, je me rappelais pas qu'il avait un carton jaune, jamais un deuxième, ben ça va se transformer en rouge. Ça, on peut quand même l'éviter, pas pour me donner raison. Si je dis une connerie qu'on arrive à me la démontrer, d'accord. Mais si je dis pas une connerie qu'on n'arrive pas à me la démontrer, eh ben je suis désolé. Mais tant que je pourrais parler et tant que je pourrais commenter et voir les choses à ma façon, eh ben je me priverai pas de donner une idée. Et si après elle est pas bonne, eh ben tant pis, mais au moins je donne une idée.
Alors n'oublions pas quelque chose, c'est que les arbitres professionnels de Ligue 1 sont des managers de très haut niveau. C'est-à-dire que un joueur qui a déjà un avertissement sur le terrain, les arbitres et l'équipe d'arbitres, c'est exactement qui sont les joueurs avec un avertissement et susceptibles d'en recevoir un deuxième. Deuxièmement, quand un fait arbitral se produit, un fait footballistique se produit avant qu'il soit arbitral, l'arbitre doit décider de l'interprétation de ce fait-là. Et le football n'est qu'interprétation. Et là où Roland va voir quelque chose de peut-être manageable dans dans la situation, peut-être que l'arbitre, lui, va voir quelque chose d'incontournable. Et c'est pas rajouter une strate d'un avertissement, d'un carton supplémentaire qui résoudra le problème d'interprétation et de différentes lectures que chacun peut avoir. Ça, c'est la première chose. C'est que, de toute façon, nous travaillons énormément et vous avez en tête, je sais bien que Roland a en tête des exemples issus de notre championnat depuis le début de la Ligue 1 au mois d'août, où nous avons estimé que la gestion d'un deuxième avertissement avait été optimale et c'est ce qu'attendait le football, et à d'autres moments où peut-être qu'effectivement ce deuxième avertissement qui a été donné a été fait de manière trop sévère et en manquant de discernement. Mais sachez que ce retour-là et ce travail-là, il est fait avec moi, avec l'équipe de la direction de l'arbitrage, avec l'arbitre, très rapidement après chaque rencontre.
Et ben ça, c'est excellent. On en parle dans un instant. Restez avec nous, Amaury Delerue. Justement, on va raconter le concret de votre travail, comment vous débriefez les rencontres avec les arbitres de Ligue 1. Vous nous donnerez également votre avis sur le début de saison des arbitres. Est-ce qu'ils font un bon début de saison depuis le début du championnat de France? Et puis, on parlera également du fait marquant d'arbitrage de ce début de saison et la prise de parole de Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, et des conséquences que ça peut avoir sur les différents corps arbitraux. 19h41 sur RMC. On arrive dans un instant, restez avec nous. L'intégral foot jusqu'à 21h.
RMC, intégral foot.
Benoît Boutron.
19h45 sur RMC, l'intégral foot avec Coach Courbis jusqu'à 21h. On parlera du foot de nos voisins européens avec les drôles de dames à partir de 20h. Mais l'événement, c'est donc Amaury Delerue qui est notre invité, manager instructeur des arbitres de Ligue 1 depuis juillet dernier, donc au plus près de l'actualité des arbitres. C'est le coach des arbitres, c'est lui qui les débriefe après les rencontres. Amaury, je le disais, le fait marquant de cette première partie de saison, c'est donc la prise de parole de Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, après ce fameux Marseille-Lyon, des attaques envers Benoît Bastien. Rappelons la sanction qui est tombée pour Mehdi Benatia, 3 matchs de suspension et 3 de plus avec sursis. Comment vous, en tant que manager instructeur, vous avez réagi et comment vous avez axé votre débrief justement avec Benoît Bastien? Parce que pour lui aussi, j'imagine que c'était un moment difficile à vivre.
Alors comment nous avons réagi à la direction de l'arbitrage? Avec beaucoup de calme, de sérénité, pour ne jamais interférer avec le travail des commissions de discipline. Le temps de ces commissions-là n'est pas le temps médiatique sur lequel nous souhaitons réagir, ça c'est la première chose. Ce que je dois vous dire par rapport à cette déclaration et cette sortie de Mehdi Benatia, c'est d'un point de vue général, ces sorties-là font énormément de mal aux hommes qui sont derrière les arbitres à partir du moment où on attaque la probité, l'honnêteté des hommes derrière les arbitres. Le message est le suivant, j'ai pu le répéter au club que je visite, au staff, aux joueurs, critiquer nos décisions, critiquer et analysons ensemble nos décisions, parlons technique, parlons arbitrage, parlons loi du jeu, parlons interprétation. Mais s'il vous plaît, n'attaquez pas les hommes et leur probité, parce que non seulement ça fait effectivement des dégâts, mais vous en faites également dans le foot amateur. Et malheureusement, beaucoup trop de passages à l'acte dans ces strates-là, avec des gens qui sont tout simplement déresponsabilisés et qui, vous imaginez bien, ont peut-être en tête l'image d'une sortie médiatique comme celle de Mehdi Benatia et qui se dit si ça se passe là-haut, écoutez, en bas, on va faire pareil finalement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Quant au management de Benoît Bastien ou d'autres arbitres attaqués après leur match, il est 1) de les entourer, 2) de les écouter, 3) de les épauler, et on a affaire, je vous l'ai dit, à des managers de très haut niveau, et Benoît en particulier, qui est un de nos meilleurs arbitres français, qui était impliqué hier soir encore sur un match de Nation League. Ce sont des gens qui ont construit la manière d'encaisser ces coups-là. Ces coups, ils font mal à répétition, mais par contre, les personnalités fortes que l'on a chez les arbitres de haut niveau savent encaisser ces coups-là. Et on les accompagne évidemment là-dedans.
La question qu'on se pose, vu que vous êtes aussi dans ces décisions-là, c'est qu'on se dit malheureusement qu'avec ce type de déclarations qui sont reprises sur les réseaux sociaux, etc., on a du mal à imaginer aujourd'hui Benoît Bastien arbitrer au Vélodrome, par exemple. Donc, ça veut dire que dans votre choix, bah, est-ce que ça vous ferme une case pour cet arbitre, par exemple ?
C'est pas ça qui nous fait orienter nos désignations. Nous sommes très clairs. Il y a des performances arbitrales, et c'en était une, qui mérite d'entretenir une dynamique de désignation. Maintenant, soyons clairs, on est extrêmement vigilant et regardant. Nous en discutons avec les arbitres, on se réunit entre nous pour savoir quelle est la suite à donner à ce genre de dossier. Mais attention, derrière ce dossier de la désignation d'un arbitre, qu'il soit X ou Y, il y a le relationnel que derrière cet événement-là, nous mettons en place à la direction de l'arbitrage, avec les clubs, ici l'OM en particulier, parce que cet événement n'est pas resté sans relation derrière, de la part de la direction de l'arbitrage, avec Pablo Longoria, avec les acteurs, etc., etc. C'est un travail, d'ailleurs, c'est une des missions que Michael Landreau peut porter avec son profil, et notre ouverture et notre communication en direction des clubs, en particulier après cet événement-là ou d'autres, est fondamental. Nous n'avons rien à cacher, nous sommes ouverts à la discussion, mais je reviens une dernière fois, critiquez nos décisions si vous le voulez, parlons football, parlons technique d'arbitrage, mais n'attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets.
Le reproche qui revient souvent auprès des arbitres de Ligue 1, c'est un certain manque de communication. C'est vrai qu'on regrette parfois, après un match, que ce soit sur le diffuseur ou dans différents médias, d'avoir l'arbitre du match qui vient, qui explique ses décisions et qui, quelque part, fait un peu redescendre la tension qui est née d'une décision qui peut porter préjudice à un tel club ou à un autre. Est-ce que là-dessus, il y a du travail à faire ? Est-ce que c'est le rôle des arbitres d'aller parler ? Est-ce que c'est le rôle du patron, Anthony Gauthier ? Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que plus de communication des arbitres permettrait d'apaiser comme ça les tensions qui peuvent naître entre club et corps arbitral ?
Alors, si ça a pu être le cas éventuellement par le passé, hein, quand moi-même, par exemple, j'étais au sifflet, effectivement, la parole des arbitres était extrêmement... encadré, nous avions un président de fédération qui ne souhaitait pas que les arbitres tout simplement s'expriment, hein, ça avait été exposé plusieurs fois. Soyons clairs, aujourd'hui, et ça a été impulsé par Anthony Gauthier depuis qu'il a pris en main la direction de l'arbitrage, la volonté, les clubs le savent, puisque nous allons exposer cet axe d'évolution majeure, cette volonté d'ouverture et de communication, nous la mettons en place concrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le début d'année, un arbitre a pu aller auprès du diffuseur après match expliquer une de ses décisions. C'était Monsieur Delajoie après le Monaco-Lens qui a occasionné deux décisions majeures dans les 10 dernières minutes de jeu. Ce sont des visites de club. J'en suis la semaine prochaine à la 15e visite de club où j'ai rencontré le staff et les joueurs pour exposer nos orientations, pour échanger avec les joueurs et avec les staffs, parce que plus nous échangeons, plus nous nous comprenons. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Et puis, peut-être que vous avez noté que depuis la 5e journée de championnat, nous publions, dans les 24 à 48 heures, des séquences qui reprennent le son de la VAR et qui expliquent la position de la direction de l'arbitrage par rapport aux décisions qui ont été prises sur le terrain. Donc tout ça fait œuvre d'ouverture et de communication, et sa vocation a perduré et a augmenté.
Et ça, c'est un autre sujet intéressant, parce que la sonorisation des arbitres de Ligue 1 avait été autorisée, mais à cause d'un manque de moyens, ça a été reporté. Est-ce que c'est préjudiciable pour les arbitres ? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on le mette en place rapidement ?
Bien sûr, c'est le sens de l'histoire, je pense. Et puis, ça a une vertu pédagogique, ça a une vertu tout à fait intéressante, à mon avis, pour tous les acteurs du jeu, les arbitres d'abord, pour expliquer en direct leurs décisions, de compréhension de la part des joueurs, des staffs, de la part des publics, des spectateurs ou des téléspectateurs, des médias. C'est le sens de l'histoire et les arbitres y sont prêts aujourd'hui. Restent les détails techniques, mais ça va arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois.
Et puis, je profite de votre présence, hein, Amaury Delerue, comme ça on est en trêve internationale, on parle au manager des arbitres de Ligue 1 pour un peu évacuer toutes les idées reçues. Roland l'a exprimé il y a quelques minutes, c'est vrai que l'idée reçue qu'on a et le reproche que l'on fait à la VAR depuis qu'elle est appliquée en Ligue 1, c'est de se dire, parfois c'est la VAR qui décide avant même l'arbitre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le protocole et surtout nous préciser une chose importante, c'est que un arbitre qui consulte la VAR n'est pas, entre guillemets, sanctionné après un match. C'est-à-dire, c'est pas considéré comme un manque de prise de décision d'aller consulter la VAR, par exemple. C'est un outil qui aide l'arbitre à prendre une décision.
Alors, ce n'est pas un outil qui aide à prendre la décision dans l'instant, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le protocole de la VAR, et peut-être qu'il faut à nouveau à votre antenne ce soir le réexpliquer, c'est que le protocole de l'assistance vidéo, il est là en cas d'erreur manifeste de l'arbitre. Ça veut dire que nous demandons à nos arbitres en Ligue 1, au niveau européen, ou au niveau mondial géré par la FIFA, d'arbitrer des décisions dans l'instant sur le terrain. Prenez vos décisions, arbitrez. Une fois que vous avez pris vos décisions, l'assistance vidéo interviendra si et seulement si l'arbitre vidéo considère que ce qui a été pris comme décision sur le terrain est une erreur manifeste. Voilà la raison pour laquelle, j'ai bien écouté Roland tout à l'heure, vous aurez des fois l'impression que un arbitre vidéo appelle un arbitre pendant qu'un autre ne l'appelle pas, puisque ils n'auront pas jugé de la même manière de l'erreur manifeste. Dans un cas, une erreur manifeste pour l'arbitre vidéo nécessitera qu'il appelle son arbitre central. Dans un autre cas, ce même arbitre vidéo aura dit « Ici, je ne suis pas face à une erreur manifeste, donc j'indique à l'arbitre central que mon contrôle vidéo est terminé et que le jeu peut reprendre. » C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se disent « Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, il est invité à venir voir les images ?» Et pourquoi parfois il n'y va pas. N'oubliez pas une dernière chose, c'est que quoi qu'il arrive, c'est à l'arbitre central de prendre la décision finale. Ça veut dire que même s'il va voir les images vidéo, c'est lui qui décidera in fine de la décision qu'il prendra. Mais avec ce que je viens de vous expliquer, s'il va voir les images vidéo, c'est que la plupart du temps, dans la grande majorité, il verra à la vidéo l'erreur manifeste qu'il a commise et donc il inversera sa décision.
Amaury, dernière question pour vous et on vous remercie d'être venu prendre le temps de nous expliquer tout ça ce soir sur RMC, profiter de cette trêve internationale, vous le manager instructeur des arbitres de Ligue 1. Vous avez été arbitre longtemps du championnat de France, hein, vous avez croisé Roland, on l'a dit au début, vous avez plus de 170 matchs arbitrés en Ligue 1. Est-ce que l'arbitrage aujourd'hui est plus compliqué qu'il y a quelques années, avec le contexte qui est différent, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des sites de paris sportifs, parce que ça rajoute une pression supplémentaire? Est-ce que c'est le sens des retours qui vous remontent quand vous faites un débrief avec les arbitres? Est-ce qu'ils ressentent plus de pression qu'auparavant?
Je dirais pas plus, je dirais une pression différente, c'est-à-dire que oui, effectivement, quand vous avez aujourd'hui des dizaines et des dizaines de caméras autour d'un terrain, des centaines, des milliers ou des centaines de milliers de téléspectateurs sur les réseaux sociaux en direct, que vous avez sur dans la surface technique, les staffs qui sont autorisés à avoir des écrans en direct live pour voir les décisions qui sont données, le contexte a évolué et la pression est donc différente. Elle est allumée de plusieurs feux. Maintenant, vous avez en face l'évolution des arbitres de haut niveau sur le plan athlétique, sur le plan technico-tactique et sur le plan psychologique qui tentent de répondre à ces exigences-là. Et donc, l'accompagnement de la direction de l'arbitrage de ce point de vue-là, c'est effectivement de prendre en compte des contextes d'une Ligue 1 toujours plus exposée, avec des joueurs toujours mieux préparé, avec des staffs toujours plus complets, et que l'arbitre, in fine, se met toujours au service de la performance. Et là, quelle est la définition de la performance de l'arbitre? Prendre les décisions qu'appelle le jeu pour favoriser le jeu, le spectacle et la protection des joueurs.
Amaury, merci beaucoup d'être venu sur RMC nous parler de tous ces sujets.
Amaury, c'était vraiment un plaisir.
Exactement.
De vous écouter et de vous entendre.
Le plaisir a été partagé. Grand plaisir de revenir prochainement.
Et ben avec plaisir. Vous êtes le bienvenu, quoi qu'il arrive, sur RMC pour parler d'arbitrage. Merci Amaury Delerue. À bientôt sur RMC. 19h58. Je précise que la Croatie a battu l'Écosse dans une fin de match complètement dingue. Il y a eu un deuxième but écossais, finalement annulé. Ouais. Le temps additionnel était terminé et l'arbitre, après assistance vidéo, justement a annulé le but des Écossais. Donc la Croatie a bien battu l'Écosse.
On ne peut pas dire que c'était un match de très très haut niveau. Hein.
C'est pas faux. 19h58, on reparle de l'équipe de France avec Jeannot Séguier dans un instant. Quelle équipe pour lundi en Belgique? Et puis ensuite, on entamera notre tour d'Europe grâce aux drôles de dames. On parlera notamment de la polémique qui entoure Jürgen Klopp, lui le nouveau directeur stratégique du groupe Red Bull au sein du football. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h03 sur RMC, l'Intégral Foot avec Roland Courbis jusqu'à 21h. Vous aurez ensuite une grande soirée de rugby. Roland, je suis sûr que tu vas regarder ce match. Toulousain, oui. SM Clermont. Le retour d'Antoine Dupont sur les plus du top 14. Et après, pour tous les fans de foot, vous retrouverez l'after à la fin du match de rugby.
Je m'imagine pas une troisième défaite pour Toulouse. Je suis connaisseur.
Ouais, moi non plus. Ouais, je suis aussi connaisseur que toi, mais moi.
Je progresse, alors ça va, c'est bon.
Bravo. Les drôles de dames seront là dans quelques minutes. On démarrera par l'Allemagne avec Paulo Breitner, la polémique Jürgen Klopp. On parlera des blessés espagnols au plus près de la Roja. Toi, ça ne te choque pas, Roland, que Mbappé soit loin des Bleus?
Ah ben non, je parle des blessés. C'est quand les joueurs ne sont pas blessés que je suis et Mbappé m'étonne énormément.
Et, ouais. Et puis, on parlera de la reconstruction italienne à 20h40 avec Johan Crochet. Mais tout de suite, on reparle de l'équipe de France. Et Jeannot Séguier est toujours avec nous. Je suis sûr que Jeannot s'est régalé à écouter Amaury Delerue, voilà, le manager des arbitres de Ligue 1, qui est venu nous expliquer tout son travail et faire un point sur l'arbitrage en championnat de France. Jeannot, toujours là, ça va, tout va bien?
Ouais, toujours là. Je te confirme effectivement que c'était très très intéressant, voire même passionnant, parce qu'il y a des choses qu'on a redécouvert sur justement l'utilité et l'utilisation de la VAR. Donc ça sera intéressant aussi au niveau des commentaires.
Et ça va t'aider toi pour tes commentaires, surtout les gros matchs de Ligue 1. Et Jeannot, pour reparler des Bleus, donc tu as assisté à tout l'entraînement, tu as vu la fameuse opposition de fin d'entraînement avec la distribution des chasubles, mais ce sont les joueurs qui s'en sont chargés, donc il y a pas d'infos à en tirer. Est-ce qu'il y a des tendances qui fuitent déjà sur la compo qui est attendue lundi face à la Belgique, Jeannot?
Très honnêtement, non. La question que l'on se posait, c'était de savoir s'il allait effectuer autant de changements qu'en septembre entre la défaite contre l'Italie et la victoire contre la Belgique. Il en avait fait 8. Il avait conservé Maignan, Saliba dans le secteur donc de la défense et Kanté au milieu de terrain. Il avait modifié toute l'attaque. Je pense qu'il peut arriver jusqu'à 6 changements. Encore une fois, ce sont pas des infos, c'est juste le fait d'avoir un petit peu discuté. Écouter ce qui pouvait ressortir des différentes conférences de presse de Deschamps, et notamment celle de jeudi dans l'annonce de la liste et celle de la veille de match mercredi contre Israël. Il est obligé de tenir compte de plein de choses. D'abord, Manu Koné, il l'a pris alors qu'il était suspendu contre Israël. Ouais. S'il l'a pris, c'est pour le faire jouer.
C'est sûr.
Donc je pense qu'il va y avoir des modifications au milieu de terrain. Déjà au niveau du schéma tactique, très certainement le revoir passer en 4-3-3 comme ça avait été le cas lors du match aller contre la Belgique où il avait modifié son schéma tactique. Donc si on prend le milieu de terrain, en considérant que même si Tchouaméni a été ménagé, Tchouaméni associé à Guendouzi et Manu Koné, ça peut être cette tendance là au niveau du milieu de terrain, parce qu'il a peut-être encore besoin de revoir Guendouzi qui a fait une entrée remarquée, hein, un but et une passe décisive. Ça lui permettrait à ce moment là de garder le brassard de capitaine auprès de Tchouaméni, ce qui serait un message fort pour la suite, hein, dans le rôle qu'il pourrait avoir derrière Kylian Mbappé. Au niveau du secteur défensif, si Wesley Fofana est venu, qu'on a pu discuter avec lui et poser la question de son positionnement préféré, d'être associé à Saliba me semble quelque chose de possible, mais être associé à Konaté aussi, parce qu'on sait que le défenseur de Liverpool peut glisser sur le côté gauche de la défense. Après, à modifier dans le, je pense qu'à gauche, oui, il va faire souffler Théo Hernandez et mettre Lucadi, ouais, à droite. Même avec Klos à la place de Koundé. Et après, dans le secteur offensif, Marcus Thuram s'est entraîné normalement. Marcus Thuram est sur une très bonne dynamique avec l'Inter, mais il a toujours pas encore prouvé vraiment son efficacité avec les Bleus. Donc certainement qu'il va débuter le match dans ce rôle de numéro 9. Est-ce qu'il va conserver Nkunku, qui a peut-être besoin aussi d'enchaîner des matchs et de protéger entre guillemets Barcola et de l'utiliser dans un rôle de joker, ou alors de mettre Barcola sur le côté droit et d'à ce moment-là utiliser Dembélé peut-être dans ce rôle de joker, et la question et de savoir si Michael Olise est capable d'enchaîner parce qu'il a beaucoup joué avec le Bayern. Donc voilà, il y a toutes ces interrogations là que nous ne maîtrisons pas, mais que maîtrise certainement le sélectionneur. De là à dire qu'il y aura 8 changements, je pense pas. Je pense qu'il n'ira pas jusque là et on aura peut-être plus de précision après la séance à huis clos de demain au stade du Roi Baudouin.
Mais les 8 changements, ils y seront, Jeannot, mais bon, on se mette d'accord. Il y aura au moins 3 changements en ce qui concerne le 11 de départ et il y aura les 5 changements en cours de match.
A priori, oui. Mais là où Jeannot a raison, c'est quand
même... Oui, non, mais moi, quand je parlais des 8 changements, c'était, c'était lors du coup d'envoi du match.
Oui, absolument.
Voilà.
Mais c'est qu'un Manu Koné qui a été convoqué alors qu'il était suspendu va forcément jouer lundi soir. Roland, c'est tout le travail d'équilibriste aussi qui attend Deschamps sur ce rassemblement. Bon, il l'a certainement anticipé, mais comme l'a dit Jeannot, un Nkunku qui joue pas beaucoup avec Chelsea, qui joue seulement les matchs de coupe notamment. Bah, est-ce que tu peux plus le faire jouer? Ça, c'est des arbitrages à faire et qui sont logiques et naturels, j'imagine.
Oui, mais tu peux le faire jouer pas obligatoirement 95 minutes. Mmh. Tu peux le faire jouer 60 minutes. Il y a une énorme différence, je trouve, de démarrer un match et de rentrer en cours de match. Et là, j'ai regardé l'autre jour contre l'Israël. Bon, mais c'est contre une équipe qui est nettement inférieure à la Belgique. Mmh. Didier a eu le culot, entre guillemets, de mettre 4 joueurs offensifs
dans un 4-3-1. Olise, Dembélé, Colomoy.
Voilà, dans un 4-2-3-1. Ouais. Après, ça se discute aussi, notamment cette ligne de 3. Qui est mieux à droite, qui est mieux à gauche, qui est mieux dans l'axe? Ben, je suis pas sûr, chacun ses goûts. Je suis pas sûr d'avoir raison non plus. Mais bon, je pense qu'il y a autre chose à faire et des permutations. Un peu plus souvent que ce qu'on a pu voir, et notamment, j'insisterai toujours, que Dembélé est meilleur à gauche qu'à droite. Bon, c'est le maniaque que je suis qui parle, c'est pas moi, donc il s'excuse, le maniaque.
Après, coach.
Vas-y, Jeannot.
Coach et Benoît, il faut qu'on tienne compte aussi dans notre réflexion à nous, ce soir, à 2 jours de ce match contre la Belgique, c'est de savoir justement, qui sera capitaine, parce que ça fait partie aussi des éléments qui nous ont interrogés en l'absence de Kylian Mbappé, sur le fait qu'il n'y avait pas Kanté non plus, qu'il n'y a plus Griezmann. Ça veut dire qu'au milieu de terrain, s'il décide de faire par exemple Manu Koné, Guendouzi et Fofana, ça voudra dire aussi qu'à ce moment-là, derrière, il fera souffler Saliba et qu'il mettra Konaté avec Wesley Fofana, dans le sens où Konaté devrait être, en tout cas, où est aujourd'hui, parmi les vice-capitaines de l'équipe de France. Il y a cette réflexion-là.
On est sûr que Maignan ne sera pas capitaine, Jeannot.
Konaté ne s'est pas entraîné ce soir et Tchouaméni non plus.
On est sûr que Maignan ne sera pas capitaine sur ce rassemblement. Pas sur le dernier match de
l'année. Le problème de Maignan, c'est qu'il je vais rejoindre la réflexion de coach Courbis depuis tant et tant d'années sur le fait qu'il avait du mal à comprendre qu'un gardien de but puisse être capitaine d'une équipe. Aujourd'hui, seul le capitaine peut parler à l'arbitre. Quand t'es gardien de but, c'est compliqué.
Ouais.
Dans le courant d'un match.
Donc, Lloris l'a été, mais la règle
était
moins
quelque chose dans la surface de réparation adverse.
Ouais. Elle était. Ouais.
C'est pas simple non plus. Je pense que c'est un élément qu'a dû prendre en considération Didier Deschamps.
Voilà, là, tu me rajoutes un élément de plus à ce que je pense depuis de longues années, parce qu'il n'y avait pas ce règlement. Mais même sans ce règlement, un capitaine gardien, pourquoi? Le gardien de but, il fait même pas le même jeu et le même métier que ses partenaires. Il a même pas la même couleur de maillot.
Il a des gants.
Je voulais m'expliquer.
Même quand il fait chaud. Mais décidément, c'est le bingo Courbis, ça, cet intégral foot. On a eu le carton orange, on a eu le nombre de matchs, les blessures, les 5 changements.
Vous me tendez la perche.
Le capitaine gardien de but. Magnifique.
Je profite.
Jeannot, merci d'être venu jusqu'à cette heure tardive avec nous. À demain pour la suite du rassemblement des Bleus. Et puis lundi, on le rappelle, lundi soir, Belgique-France en direct de Bruxelles. Grande soirée foot sur RMC, Jeannot.
Salut, Jeannot.
Allez, tout à fait. Bonne soirée.
Merci, Jeannot. 20h12 sur RMC. Dans un instant, On ouvre la porte à nos voisins européens. Nos drôles de dames seront là. On va aller en Allemagne. On va te raconter pourquoi Jürgen Klopp fait polémique. Roland, tu vas voir, ça chauffe en Allemagne.
Ah bon?
Et ouais, on en parlera avec Paulo Breitner. Et puis on parlera de l'Espagne aussi à 20h30. Est-ce que finalement c'est pas le bon exemple à suivre, les Espagnols? Il y a moins de vedettes, il y a plus de collectifs, il y a pas d'histoire extra-sportive. Est-ce que c'est pas l'équipe dont on doit s'inspirer? À tout de suite sur RMC, l'intégral foot jusqu'à 21h.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h14 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h. Roland Courbis à mes côtés pendant encore 45 minutes. On rappelle qu'on ouvre la porte aux drôles de dames. Dans un instant, Paulo Breitner. Dans 10 minutes, Edgar Grollo à Madrid. Et puis à 20h45, l'Italie avec Johan Crochet. Mais il est là donc, notre Paulo Breitner, notre spécialiste du foot allemand. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Benoît, bonsoir mon cher Roland, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
T'es en forme Polo, est-ce que cette trêve internationale te régale?
Ah, on me dit que je tiens bien la route pour un vieux premier trimestre, là ça va, je sais pas, quand l'Alpe d'Huez va arriver, on va laisser les autres, les jeunes passer, mais bon. Voilà, je peux les amener au pied en tout cas.
Polo, avant de parler de la polémique Jürgen Klopp, parce que ça fait beaucoup parler en Allemagne, un mot sportif tout de même, parce que lundi l'Allemagne affrontera les Pays-Bas, il y a eu cette victoire en Bosnie 2-1 hier, qu'est-ce que tu retiens de ce succès? Il y avait quelques événements, il y a des joueurs qui sont testés offensivement, et il y avait Nöbel dans les buts, incroyable, gardien de Monaco, était titulaire en équipe, enfin l'ancien gardien de Monaco était titulaire en équipe d'Allemagne, qu'est-ce que tu retiens de ce match alors Polo en Bosnie?
Que un petit peu comme j'ai dit hier soir, 2-0 après 35 minutes de jeu pour la Nationalmannschaft, 3 buts refusés pour la Nationalmannschaft pour des hors-jeux millimétrés, un pénalty non sifflé alors que la faute a lieu dans la surface et qu'on l'arbitre a préféré mettre un coup franc, et puis paradoxalement donc une domination quasi totale de la sélection allemande, et puis paradoxalement comme ça arrive souvent quand tu mets pas le troisième but, un coup franc, l'indétrônable Dzeko, j'ai envie de dire, marque à la 70e, et donc tu te retrouves avec une vingtaine de minutes un peu compliquées à gérer pour la sélection allemande dans un petit stade bosniaque, Excel Kessel comme on dit en Allemagne, un petit chaudron où il faut gérer l'ambiance aussi parce que c'est très proche, les tribunes sont très proches, mais globalement il n'y a pas eu photo sur la rencontre, donc c'est très bien pour la sélection allemande qui prend à bras-le-corps cette compétition, ce qu'elle n'a pas toujours fait les dernières fois. Nous rappelons qu'elles ne sont jamais qualifiées pour les demi-finales.
Et là, compte tenu du contexte, il n'y a pas le choix, quoi. Après l'euro, il faut briller.
Ouais. Ouais, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, un peu comme l'Espagne, mais pas pour la même raison, ces deux sélections, je trouve, montent en gamme. C'est un petit peu comme si l'euro à domicile était un peu trop lourd à porter, pour la sélection allemande, et depuis que cet euro s'est fini, ils sont en train d'éclater tout le monde. C'est un peu ce qui se passe dans cette compétition. Le niveau de la sélection allemande est très, très, très fort, je trouve, notamment grâce à un certain duo Musiala-Wirtz.
Ah ouais.
Musiala n'est pas là pour l'instant. Wirtz fait des choses extraordinaires.
Je vous invite à aller voir sa passe d'hier. Ouais. Mon Dieu, quel bonheur.
C'est extraordinaire, la petite talonnade pour Mbappé. T'as l'impression qu'on a retrouvé, alors je vais pas dire que c'est une grande sélection allemande, comme on a pu voir lors de la dernière décennie, mais vraiment des moments où ils sont largement supérieurs à leurs adversaires. Et surtout, si le duo continue à bien s'entendre, Musiala-Wirtz, ça donne des perspectives supplémentaires pour cette sélection. Donc moi, je suis très optimiste. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas été comme ça. Rappelons qu'ils veulent gagner aussi, que Nagelsmann veut gagner la Coupe du Monde 2026. Et je pense que s'ils continuent à évoluer comme ça, on a potentiellement un demi-finaliste. En fait, suite, on verra du tirage et tout ça. Mais on a potentiellement un demi-finaliste aux Amériques, j'ai envie de dire.
Et voilà, ça, c'est l'Allemagne qu'on aime, Roland. Tu vois, juste après l'Euro, nous, on veut gagner la Coupe du Monde. Et on sera en demi-finale, on verra le tirage, mais après, on y sera. Non mais Roland, tu te rends compte, Nöbel que tu as vu à Monaco, que tu n'as pas vraiment apprécié, il se retrouve titulaire en équipe d'Allemagne. C'est pas
je te dis que le poste de gardien de but, c'est un poste particulier et un poste spécial. Donc déjà, qu'ils ne font pas le même métier, le même sport que les partenaires, si tu les mets dans un endroit, dans un club ou dans un autre endroit, ils sont totalement différents, mais c'est magnifique.
Polo, en un mot, sa prestation. On rappelle que Ter Stegen, le titulaire au poste, est blessé pour une longue durée avec le Barça.
Emmanuel Neuer a pris sa retraite, évidemment. Ouais. En fait, il a fait une superbe saison l'année dernière, ce qui l'a pas empêché, notamment dans deux rencontres, dont une dont je me rappelle très bien, c'était contre Leipzig, de faire une boulette énorme. Il a fait une excellente saison, et si Stuttgart est en Ligue des Champions, c'est notamment grâce à Alex Nübel, qui a beaucoup appris. Peut-être est-il aujourd'hui, à 28 ans, un peu mature, après qu'il a prolongé au Bayern Munich. Il appartient toujours au Bayern Munich, même s'il est prêté encore pendant 32 ans à Stuttgart, et en fait il est toujours en progression. Ça, le fait qu'il soit sélectionné est logique sur ses performances. Maintenant, on en parlait cette semaine avec Simon Pouplein, j'ai du mal à croire qu'il arrive à se stabiliser en fait, parce qu'il faut quand même que ta défense ait confiance dans ton gardien, quoi. Et moi j'ai encore un peu de mal à ce niveau-là, mais il a vraiment fait une saison assez exceptionnelle l'année dernière.
Ouais, je précise que c'est un très bon podcast à aller écouter, donc l'After Allemagne, puisque désormais il y a des afters par pays, donc c'est disponible sur les plateformes de téléchargement de podcasts, et donc c'était l'After Allemagne avec Polo, avec Simon Pouplein, pour parler des gardiens de but de la Mannschaft. Polo, on l'a dit, la polémique qui enfle, et on voulait en parler avec toi ce soir, c'est donc la polémique Jürgen Klopp. Le choix de Klopp fait réagir, il a été nommé directeur mondial football au sein de Red Bull après 23 années passées sur les bancs d'équipe pro, vous l'avez connu notamment à Dortmund et à Liverpool. Ça a du mal à passer en Allemagne parce que le modèle Red Bull dérange déjà. Alors lui n'a jamais pris position contre Red Bull, mais dans le football traditionnaliste allemand, là on a du mal à le digérer, quoi, cette nomination.
Bon. Alors là, permets-moi de pas être tout à fait d'accord à ce que tu viens de dire sur Jürgen Klopp. Il y a une vidéo qui circule.
Ah, j'ai pas vu la vidéo, alors.
Qui date de 2 ans où on voit les propos de Jürgen Klopp sur le RB Leipzig et sur la Galaxy Red Bull, et on va dire que c'était pas forcément formidable mais en fait, oui, évidemment, ça fait beaucoup réagir. Beaucoup de personnes se disent choquées par la décision de Jürgen Klopp de devenir directeur mondial du foot de Leipzig, mais de la Galaxy Red Bull, pardon, mais d'un côté, ça se comprend si on raisonne en termes de jeu. Jürgen Klopp est, qu'il le veuille ou non, un petit enfant de Ralf Rangnick, qui a développé à Hoffenheim le fameux Gegenpressing, qu'il a ensuite mondialisé avec la Galaxy Red Bull. Et moi, j'ai toujours le souvenir de 2008 où Jürgen Klopp se prend une raclée 4-1 avec le Borussia Dortmund à Hoffenheim, et il dit en conférence de presse, c'est comme ça qu'on doit jouer, et à partir de ce moment-là, il va développer le même système de jeu qu'Hoffenheim à l'époque, version Ralf Rangnick, et il va même l'aller beaucoup plus haut avec le Borussia Dortmund, puis ensuite Liverpool. Donc au niveau du jeu, il n'y a pas de souci. Le problème, si tu veux, c'est que Jürgen Klopp en Allemagne passait un petit peu pour le dernier des romantiques.
Oui, voilà.
Et la Galaxy Red Bull, c'est tous des romantiques. C'est des mecs qui y a de très beaux comptables, de très beaux financiers.
C'est le pragmatisme, quoi. Ouais.
C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est ça ce qui choque un petit peu. Maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est que Jürgen Klopp, il passe pour le bon allemand, entre guillemets, le messager du football allemand, romantique, tout ce qu'on veut, etc. Et là, on se rend compte que la réalité fait que Jürgen Klopp a signé. En plus, on apprend, alors qu'il nous disait qu'il voulait se reposer pendant quelques temps, qu'il y avait des négociations très sérieuses depuis août, et il y en avait même qui disent en Allemagne que ça avait commencé en 2022, les négociations, ou au moins les discussions. Donc tout ça, en fait, est prévu. Moi, le personnage de Jürgen Klopp m'intéresse, mais le personnage globalisé...
Est-ce que toi, ça te dérange, d'ailleurs, en tant que spécialiste?
Moi, j'ai jamais cru au romantisme de Jürgen Klopp, si tu veux. J'ai toutes ces déclarations en Allemagne où il se fait passer pour un mec de gauche qui croit dans l'État-nation et ceci. Non, mais c'est ça, Jürgen Klopp en Allemagne. Où il se fait passer, il aime pas trop le capital et ceci et cela, m'a toujours fait rigoler. Lorsqu'il était en première ligue et qu'il critiquait les montants qui étaient dépensés à Liverpool, jusqu'à preuve du contraire, il s'est pas serré la ceinture. Donc, il y a toutes ces choses-là. Non, mais il faut bien comprendre le personnage qui est adulé en Allemagne. Je veux dire, je rigole pas avec ça. Vous allumez la télé, vous avez une pub avec Jürgen Klopp. On n'a pas vu ça depuis Franz Beckenbauer.
Ah ouais.
Donc c'est quand même un truc de fou. Mais il est toujours bien, il est toujours parfait. J'ai envie de dire, c'est le George Clooney du football. Il a toujours le sourire, il est toujours en train de dire des choses positives, etc. Dans n'importe quel endroit, il a la bonne phrase qui sort, comme s'il y avait un storytelling qui était préparé à l'avance systématiquement.
Non, mais regarde sa sortie à Liverpool où il fait ovationner son successeur et tout. C'est vrai que tout ça, en termes de communication, c'est un expert, c'est vrai.
Mais je trouve que c'est un peu trop. Moi, je l'ai connu. En plus, il se fait que je connais des journalistes allemands qui le suivaient à Mayence et qui l'ont suivi au Borussia Dortmund. C'est un petit peu plus compliqué, le personnage. Je pense que d'ailleurs, il faudra en parler peut-être un lundi avec Julien, le personnage qu'il est, non pas vraiment, mais en tout cas d'autres facettes du personnage. Je suis pas surpris dans le sens où, et il a raison, je vais retrouver des copains comme Marco Rose, qui est l'actuel entraîneur de Leipzig, comme il va retrouver son ancien coach adjoint lorsqu'il était à Liverpool, qui va le retrouver à Salzbourg, etc. Donc je suis pas surpris par ça, mais le fait qu'il y ait une communication où il est toujours du côté entre guillemets des classes populaires et qui va signer dans une galaxie qui propose le football, je vais dire du 21e siècle, quand c'est pas celui du 22e siècle, et qui sont pas forcément intéressés par les supporters ou la tradition dans les clubs ou l'histoire des clubs, etc. Ouais, enfin moi ça me fait un peu rigoler. Je veux dire, j'ai plus de 50 ans, c'est bon quoi. C'est pas non plus. Il y a des gens qui veulent croire à la légende du Jürgen Klopp, c'est leur problème, c'est pas le mien. Quoi,
alors, Roland, on va pas rentrer dans la polémique purement allemande, mais ça montre aussi, ça démontre l'importance de la communication aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que il y a l'image de Jürgen Klopp, il y a le choix de carrière, et c'est ça qui dérange.
On traverse une époque où c'est sûr que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même quelque temps déjà que la communication est quelque chose de très important, puisqu'il y a l'évolution dans tout, même dans les portables, dans les réseaux sociaux. Mmh. Donc si tu veux, le moindre petite erreur, la moindre petite phrase où tu t'es peut-être trompé de verbe, eh ben à ce moment-là, ça fait un scandale. Mais c'est vrai que j'écoute toujours attentivement Polo, et ce qui se passe du côté de Klopp, sincèrement, moi je suis pas surpris ni choqué une seconde.
Ouais, c'est ça. C'est que tu sais à quelle histoire ça me fait penser ? Ça me fait penser à Arsène Wenger qui a rejoint le projet de la FIFA pour développer le football. Alors, ça a été un des principaux opposants de la FIFA pendant toute sa carrière d'entraîneur. C'est vrai, c'est une sorte d'opportunité qu'il saisit et qui va pas avec sa communication précédente. C'est ce qui est un peu bizarre avec Klopp. Est-ce que malgré tout, Polo, il a des défenseurs en Allemagne ? Est-ce que les dingos du Borussia Dortmund sont encore amoureux de Klopp et le soutiennent coûte que coûte, par exemple ?
Alors, chez les supporters, c'est un peu plus compliqué. Parce que honnêtement, ils comprennent pas. Il y a beaucoup de par exemple, Lothar Matthäus, hein, qui est pas connu pour être un grand ennemi du capital, comprend pas non plus ce que fait Jürgen Klopp, etc. Il y a beaucoup de personnages qui se positionnent en disant mais c'est bizarre. Et puis il y a ceux qui disent ben oui, mais finalement il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Il doit juste en supporter les conséquences. Mmh. Maintenant, encore une fois, le fait que on n'aime pas le club ou la Galaxie Red Bull en Allemagne est beaucoup plus complexe que ça. Parce que dernièrement, le club de Leipzig, il y avait eu des enquêtes en fait en Allemagne où finalement le club, de par sa façon de jouer, ce qu'ils ont apporté au football allemand, était considéré comme le quatrième club le plus intéressant d'Allemagne. Donc c'est autre chose quand même. Alors loin que le Bayern, loin de Borussia Dortmund évidemment, ouais. Mais c'était pas forcément le club le plus détesté. Et mon ami Peter Zeidler disait une chose comme ça et qui est très juste, je trouve. Il dit, il y a pas d'amour envers la Galaxie Red Bull, mais il y a du respect pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont réussi à bâtir. Donc c'est un peu une chose comme ça. Et certains sont un peu philosophes en me disant de toute façon c'est la philosophie du foot. Mais encore une fois, une semaine avant la déclaration de Klopp, on entendait son patron, son nouveau patron Oliver Minzlaff, qui disait que la Coupe du Monde à 25 c'est très bien, tout ce que fait la FIFA c'est formidable, etc., etc. Donc il y a des prises de position sur certains sujets qui peuvent choquer, qui vont choquer les Allemands, mais faut pas s'étonner non plus. Ensuite, on a le droit de choisir son camp ou pas, ou de dire que c'est pas un camp finalement. Mais voilà.
Et puis nous, on sera très content de le voir à Charletti d'ici la fin de saison. Si jamais il y aura le Paris FC en Ligue 2, on sera ravis. On y sera, on lui tendra le micro. Tu peux compter sur nous.
Pas avant janvier, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Pas avant janvier. Juste une précision pour refermer ce dossier. Il a une clause de sortie pour aller récupérer la sélection d'Allemagne.
Non.
Ah non, c'est faux.
Ça a été démenti. Il n'y a pas de clause. De toute façon, d'ailleurs, ça a beaucoup dérangé un peu Nagelsmann qu'on, en gros, on pourrait presque le jeter après la Coupe du Monde.
C'est vrai,
26. Mais encore une fois, tout ça, c'est dans la communication de ce que représente Jürgen Klopp en Allemagne. C'est-à-dire que je dis souvent ça en blaguant, il se présente à la Chancellerie allemande, il est élu, quoi.
Ah ouais, c'est dire la cote de popularité dont il bénéficie.
C'est exactement ça. Donc en fait, ça a été sa clause a été démentie. Ben de toute façon, il a un contrat tout à fait normal et il n'a qu'à aller dire ben voilà, je démissionne et puis c'est
je m'en vais, je veux récupérer la sélection allemande et ça sera fait.
Exactement.
Merci Polo. Eh ben écoute, on se retrouvera dès lundi soir, Allemagne-Pays-Bas, match que tu viendras débriefer dans l'after évidemment. Merci Polo, bonne soirée à toi.
Ciao.
20h27 sur RMC. Dans un instant, on passe de l'Allemagne à l'Espagne. Roland, est-ce que l'Espagne, c'est le bon modèle à suivre justement pour notre équipe de France ? Il n'y a pas de vedette, il y a un jeu collectif, il y a un soutien populaire incroyable. L'Espagne qui nous a régalé pendant l'Euro. Et on s'intéressera d'ailleurs au dossier Mbappé. Comment les Espagnols ont traversé cette semaine particulière pour Kylian Mbappé ? On retrouve Edgar Grollo dans une minute. L'Intégral Foot jusqu'à 21h. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h30 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h ce soir avec Coach Courbis. Ensuite, grande soirée de rugby avec l'Intégral Sport et Toulouse-Clermont. Le retour d'Antoine Dupont en top 14. Ce sera à suivre sur RMC avec notamment Wilfried Templier aux commentaires. Mais on est en plein tour d'Europe dans cette soirée et cette période de trêve internationale et de Ligue des Nations. Allons en Espagne retrouver Edgar Grollo en direct de Madrid. Salut Edgar.
Salut Benoît, salut coach, salut tout le monde.
Bon, salut. Edgar, il y a match ce soir pour les Espagnols, hein, donc on va en parler. Espagne-Danemark ce soir à 20h45, oui. C'est dans 15 minutes. Bah, est-ce que tu veux nous donner la compo espagnole d'ailleurs? Tu peux, si tu l'as sous les yeux.
Ouais, bien sûr, avec Raya dans les cages, la défense, Grimaldo, Laporte, Viviane et Porro. Donc ça, c'est des noms qu'on connaît peut-être un petit peu moins, hein, Dani, Viviane et Porro. Le milieu de terrain, Pedri, Zubimendi et Fabian Ruiz, le parisien. Et puis l'attaque, Lamine Yamal, côté droit, le capitaine Alvaro Morata qui est de retour. Et ensuite, Oyarzabal, côté gauche, le joueur de la Real Sociedad.
Belle équipe sur le papier, Roland.
Ah ben oui, comme d'habitude, mais le problème, c'est que c'est pas que sur le papier.
C'est ça.
Quand tu la vois jouer aussi, tu dis, c'est une équipe qui ressemble à une bonne équipe de football.
Exactement. Avant de se concentrer sur la Roja, le sujet qui nous intéresse, Edgar, c'est évidemment Kylian Mbappé.
Ça nous intéresse?
Ah bah oui, tu es à Madrid pour ça, je te rappelle, mon vieux. C'est pour ça que t'es correspondant.
J'ai entendu parler de certains trucs sur lui ces derniers jours.
Ah ouais, j'imagine. Mais ce qui est fou et ce qui est paradoxal pour toi, c'est qu'étant français et vivant en Espagne, tu dois le vivre à contre-courant parce que chez nous, c'est la folie. Alors qu'en Espagne, j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment les gros titres de la presse, le fait qu'il soit allé passer quelques jours en Suède et qu'il soit en Corse depuis quelques heures.
Oui, c'est ça, parce que finalement, du côté du Real Madrid, il n'y a pas vraiment de questions. Le staff était au courant, le club était au courant, donc il s'est pas mis en porte-à-faux par rapport au Real. Et donc, entre guillemets, la presse espagnole, c'est pas sa plus grande priorité, en fait, cette histoire, parce que, bon, ce qui leur intéresse, c'est est-ce que Mbappé aurait fait quelque chose sans prévenir le Real. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, de leur côté, il n'y a pas de scandale. Moi, j'ai plutôt des confrères espagnols qui me disent, alors, c'est comment évolue la polémique en France, eux, ça les intéresse de savoir, nous, comment on en parle. Mais en Espagne, personne n'est scandalisé par ça. Leur priorité, c'est le Real Madrid, c'est pas la sélection française. Donc, c'est sûr qu'en France, la polémique est beaucoup plus grande qu'en Espagne. En tout cas, après, je dis ça les a pas empêchés d'aller voir le menu du restaurant où il était allé, etc. Bon, vous connaissez les médias espagnols et comment ils marchent.
Tiens, je suis sûr que tu as les yeux dessus, donc je me permets de t'en parler, Edgar. Il y a donc le match des streamers, hein. C'est toutes les stars des réseaux sociaux, donc espagnoles et françaises, qui s'affrontent dans un match amical. Il y avait eu une première manche il y a 2 ans au stade Jean Bouin. Les Français avaient gagné 2-0. Il y a le match retour au Wanda Metropolitano. Je vous en parle parce que le match est arrêté. On se plaint de cris racistes chez les Français qui ont quitté la pelouse. L'arbitre a décidé de stopper la rencontre. Si tu as plus d'informations, Edgar, n'hésite pas. D'ailleurs, on a un envoyé spécial sur place. On essaiera de le contacter. Mais voilà, c'est une triste image qui est en train de se dérouler sous nos yeux, malheureusement, alors que ça partait d'une bonne intention. 20h33.
En tout cas, sur ce point, je sais que dans l'organisation du match, c'est un scénario, parmi plein d'autres évidemment, qui avait été évoqué. Je sais que c'est l'éventualité qu'il puisse y avoir des choses là. Et ça avait été préparé, en tout cas, par l'organisation, qui avait prévu, je ne sais pas exactement quel protocole ils ont mis en place. Okay. Mais voilà, c'est quelque chose qui avait été évoqué dans l'organisation de l'événement. Malheureusement, visiblement, ça pourrait être en train de se passer.
Vous avez le fil info sur l'appli RMC Sport et on nous signale que Brox, donc le streamer Brox, se plaint de mimes de singe de la part de supporters espagnols qui lui étaient destinés. 20h34, Roland, tu comprends forcément que la polémique Mbappé, ça en fait beaucoup plus chez nous que chez eux, parce qu'en fait, eux, ils pensent au Real et ils se disent que Mbappé se régénère, c'est pas un problème.
Je trouve ça, on ne peut plus logique. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, essayons quand même de prendre un petit peu du recul, on regarde les solutions que Didier va peut-être trouver pour justement penser à deux cas de figure. Un cas de figure avec Mbappé, un cas de figure sans Mbappé. Et Mbappé, ben, on va quand même le suivre toujours, ce qui est tout à fait normal. Et on va toujours commenter tout. Je te donne une idée. Est-ce que ça a été très, très intelligent de sa part et de son entourage de signer au Real aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette période-là. Et au Real, je leur pose une question. Est-ce que c'était vraiment aussi
nécessaire d'aller chercher Mbappé? Bon, c'était une opportunité aussi, parce que bon, là, t'avais pas de transfert à payer, il était libre. Oui, mais bon. Et puis, recruter un des meilleurs joueurs du monde, c'est la philosophie du Real, quand même.
Oui. Bon. Ok. Mais alors, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et je vais voir un petit peu l'évolution de la carrière d'Mbappé, qui n'a que 25 ans et demi. mais qui a déjà 25 ans et demi, et à l'intérieur de son corps, notamment de son cerveau, ouais. Je pense que c'est peut-être 35 ans.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs disputés, de rencontres à pression. 20h35, Edgar, c'est d'ailleurs le contraste saisissant. C'est fou d'ailleurs que ces deux images se superposent entre guillemets, s'entrechoquent, pardon. C'est que d'un côté, on avait Mbappé qui zappait le match des Bleus pour aller en soirée en Suède, et de l'autre, on voyait les blessés de longue durée de l'équipe espagnole rejoindre leur coéquipier à l'hôtel. On a vu Dani Carvajal qui s'est détruit le genou contre Villarreal avec le Real sur les dernières minutes.
Ah, quelle catastrophe pour le Real,
une blessure atroce. Et Rodri qui lui se plaignait des cadences infernales, le joueur de Manchester City qui était certainement le meilleur joueur du monde, qui était lui aussi blessé, qui s'est rompu les ligaments croisés. Les deux sont venus voir leur partenaire, visiter leur partenaire il y a quelques jours au centre d'entraînement de l'Espagne.
Oui, c'est sûr qu'il y a un contraste entre les deux sélections, et c'est sûr que c'est ce qui ressort quand on regarde cette sélection espagnole. On a l'impression que c'est vraiment une équipe. Il n'y a pas vraiment d'individualité qui saute aux yeux, même si évidemment, bon, Lamine Yamal est en train de devenir un tel phénomène qu'on peut pas l'éviter. Mais c'est vraiment une équipe. Les nouveaux joueurs s'intègrent facilement, et Alvaro Morata en parlait en conférence de presse. Il a rarement, lui, dans sa longue carrière, connu une ambiance comme ça dans le monde du foot. Il disait qu'à chaque fois qu'il y avait des nouveaux joueurs qui venaient dans l'équipe, il avait l'impression qu'ils étaient là depuis 3 ou 4 ans, et il disait même que pour lui c'était ça leur force, et de l'extérieur en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, cette équipe, en fait l'impression qu'elle donne et l'impression qu'elle donne donc en dehors des terrains et sur le terrain en plus dans ses performances, c'est très cohérent, c'est cohérent aussi avec l'image que donne le coach Luis de la Fuente, qui lui non plus n'est pas du tout une star,
ouais.
Qu'il devient forcément en ayant porté cette équipe, mais voilà, c'est une cohérence globale du projet qui est en avance largement sur les temps de passage qui étaient prévus, parce que cette équipe est très jeune, et on se dit que il y a aucune raison de voir cette équipe ne pas continuer à progresser dans les prochaines années, même si Alvaro Morata a dit en conférence de presse avant la rencontre qu'il a dit si seulement le mondial était le mois prochain, parce qu'il sait, il ouais. sent qu'il y a quelque chose vraiment de spécial en ce moment avec la Roja, il y aura forcément des moments de moins bien dans les prochains mois, les prochaines années, mais en tout cas il y a beaucoup d'espoir. J'aimerais bien être supporter espagnol en ce moment, en tout cas de la sélection.
C'est sûr. Mais le contexte est toujours particulier entre l'Espagne et ses supporters, parce qu'il y a beaucoup de régionalisme. On est fan du Barça, du Real, avant tout des clubs, avant de la sélection. Mais toi qui vis sur place, tu sens vraiment un contexte très favorable, quoi. Les gens se passionnent pour cette équipe, alors.
Lamine Yamal, c'est l'exemple parfait, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de régionalisme, et les supporters du Real vont avoir du mal à chanter le nom d'un joueur du Barça. Mais honnêtement, quand c'est l'Espagne qui joue, tu vas dans le centre de Madrid, tu vas devant la boutique Adidas ou une boutique de la Fédération, ce sont les maillots de Lamine Yamal qui sont mis en avant. Franchement, 75% des maillots de la Roja que tu vas voir dans la rue, ça va être Lamine Yamal. C'est dingue, et ça c'est vu de Madrid, donc l'ennemi juré du Barça, et les Madridens, ils ont peut-être des fois du mal à l'avouer, mais ils l'adorent, ils le chantent, ils chantent son nom, et c'est vraiment une star qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Voilà, évidemment, aujourd'hui, s'il y avait une individualité à ressortir, ce serait lui, mais c'est la différence aussi avec peut-être la grande Espagne qu'on a connue il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, c'est qu'avant c'était que des joueurs du Barça et du Real, et là c'est une équipe, et on l'a entendu aussi quand on donnait la compo tout à l'heure, avec des joueurs qui viennent un peu de partout, de l'étranger, de clubs peut-être un petit peu moins, enfin qui étaient moins représentés en tout cas il y a 10-15 ans, je pense à l'Athletic Bilbao, je pense à la Real Sociedad, et donc en fait tous les Espagnols, enfin beaucoup d'Espagnols peuvent se retrouver dans cette équipe, peuvent se retrouver aussi dans leur région aussi, et c'est vraiment une belle période qui est en train de traverser la sélection avec vis-à-vis de ses supporters aussi.
Roland, tu sais combien il y a de joueurs du Real titulaires avec l'Espagne ce soir?
6.
0.
Non.
Pas un joueur du Real Madrid titulaire. Et il y en a deux du Barça. Bah, c'est un concours de circonstances. Hein. Carvajal est blessé de longue durée. Il y a quelques cadres qui ne sont pas là. Mais il n'y a pas un joueur du Real Madrid titulaire dans cette équipe. C'est fou quand même.
Bah oui, je réfléchissais quand même, Lamine Yamal, pour les futurs Ballon d'Or.
Ah oui.
Rodri. Donc, du Real Madrid, bah, tu peux rajouter Vinicius, bon, qui n'est pas espagnol. Donc, je pense que c'est quand même compliqué pour notre Kylian.
Après, il y a Lamine Yamal, pardon, il faudra gagner les titres. Ça, Ça, c'est différent.
Eh oui.
Parce que le Barça n'est pas dans une grande période.
Bon, même si l'Espagne est un grand pays de foot, c'est pas un grand pays de ballon d'or. Il y a eu un seul ballon d'or espagnol dans l'histoire du foot. Ça paraît dingue. C'était Luis Suarez il y a très longtemps.
C'est fou, ça.
1960.
Quand il gagne, ça paraît dingue, mais
il y a un seul ballon d'or. Parce que c'est un collectif, tout ça a toujours été comme ça.
L'année où Iniesta ne l'a pas eu, tu ne peux plus faire de commentaires.
C'est sûr. D'ailleurs, il y a des hommages qui sont prévus ou qui ont déjà été rendus à Iniesta en équipe nationale?
Alors je sais qu'évidemment ça est, tous les Espagnols en ont parlé, évidemment il y a eu énormément d'hommages de ses anciens coéquipiers de la sélection actuelle. En plus ça a été une semaine très particulière parce que il y a eu la retraite d'Iniesta et il y a eu la retraite de Rafael Nadal. Donc en fait ici pour tout un pays, c'est vraiment une époque une période d'or du sport espagnol qui tire sa révérence cette semaine. Maintenant, j'imagine, je t'avoue que je sais pas exactement ce qui est prévu ce soir pour lui, mais j'imagine évidemment qu'il y aura un hommage du côté de Murcia, parce que ça joue du côté de Murcia ce match Espagne-Danemark ce soir.
Ok, bah Edgar, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Tu suis ce match avec beaucoup d'intérêt. Espagne-Danemark. Je précise à tous les supporters marseillais que Højbjerg est bien titulaire dans le milieu de terrain danois. Donc on suivra sa performance. Et voilà, 20h45, le coup d'envoi d'Espagne-Danemark. Merci Edgar, bonne soirée à toi.
Merci monsieur.
Alors je vous le disais, 20h41 sur RMC, il y a donc le match des streamers ce soir. C'est un événement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes jamais sur X ou sur YouTube, vous avez forcément vu passer cette info. Les Français affrontent les Espagnols. Il y avait eu le match aller il y a 2 ans, victoire des Bleus 2-0. Le match se déroule au Wanda Metropolitano. Il est interrompu depuis quelques minutes et on a un envoyé spécial, c'est Alexandre Jacquin, qui est en direct du stade. Salut Alex.
Salut Benoît, ça va? Comment tu vas?
Bah écoute, très bien, on est ravis de te retrouver parce que c'est toi qui assures le fil sur notre appli rmcsport.fr. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Là, on a les images avec Roland, on voit les joueurs français qui reviennent. A priori, il y a des messages qui ont été passés parce qu'il y a eu des gestes racistes détectés par l'équipe de France, hein, c'est ça, hein?
Ouais, exactement. Alors moi, je me trouve derrière un des buts du stade, de l'Atlético Madrid, au bord du terrain. Et en fait, effectivement, à l'instant, il y a Amine qui est sorti, donc Amine, le capitaine de l'équipe de France, qui s'est adressé au micro à tout le public en leur disant que c'était intolérable d'entendre des cris racistes dans le stade, notamment un joueur qui a été visé qui s'appelle Brock, c'est lui qui s'en est plaint. Il est allé s'en expliquer auprès d'un supporter, ce qui a fait que le match a été interrompu. Donc Amine a demandé à tout le monde de revenir un peu à la raison, que c'était inadmissible. Il a aussi dit qu'il y avait des supporters français qui sont un petit peu disséminés dans tout le stade, qui avaient été insultés de salle arabe, de salle noire. Il a dit faut pas qu'on continue à jouer dans cette ambiance, c'est un match de divertissement. Faut pas en arriver là. Et donc, il a dit malgré tout, ça reste un événement pour lequel on a été invité, organisé par DJ Mario, qui est le capitaine des Espagnols. Donc, il a dit nous, on n'a pas envie de gâcher la fête non plus, mais on peut pas continuer comme ça. Donc, il a demandé à DJ Mario, le capitaine espagnol, de lui-même s'adresser à son public. Ce qu'il a fait, du coup, en prenant le micro. A priori, ça a l'air de porter un peu ses fruits, puisque les gens ont eu envie, a priori, de se calmer un petit peu. C'est vrai que là, il y a pas mal d'électricité dans les tribunes. Ouais. On avait l'impression au départ que c'était un peu bon enfant, mais c'est vrai que là, ça a dérapé à quelques endroits. Et le joueur en lui-même, Brock, qui était visé par les attaques racistes de certains supporters, s'est lui aussi exprimé au micro. Il a dit que c'est la première fois que ça lui arrivait et que lui, au départ, c'est même pas un joueur de foot. Donc, il était un peu décontenancé par tout ça et voilà, il a demandé du respect. Donc, a priori, le match va reprendre. Les joueurs sont en train de se remettre en place. Voilà, on espère que tout le monde va retrouver un petit peu son calme et que ce genre de propos inadmissibles ne vont plus être entendus pour la suite.
Juste un mot, Alex, toi qui es présent dans le stade derrière un but, tu sens cette tension ambiante? Tu as senti que c'était déjà tendu même pendant la première période?
Ouais, bah en fait, on le sent parce qu'en réalité, il y a beaucoup de supporters français qui sont un peu partout. Alors, des fois, ils sont par petits groupes, parfois, ils sont un peu isolés. À la mi-temps, d'ailleurs, on était à côté d'un bout de tribune où un supporter français avait sorti son maillot et en fait il a dû se faire évacuer par les stadiers parce que ça chauffait un peu pour lui. Donc voilà, il y a par endroit c'est bon enfant, par endroit on sent que c'est un peu électrique. Le public, faut rappeler, est très jeune ici, hein, la moyenne d'âge je pense que c'est 18-20 ans,
bien sûr,
hein. Donc tout le monde n'a pas la maturité je pense pour ne pas faire déraper la situation. Voilà, après nous d'où on est, c'est vrai qu'en bord terrain avec le bruit etc, moi où j'ai pas entendu les cris racistes etc, mais c'est vrai que c'était à l'autre bout quand Brock s'en est plein. Et tout de suite, tout le monde a réagi. Le banc français a couru vers lui. Tous les joueurs l'ont soutenu. Donc, on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Pour être honnête avec toi, j'ai tout de suite pensé à ça. Je voulais pas non plus présager ce qui s'était passé, mais ça se sentait que ça. qu'il y avait eu des mots plus que des insultes, parce que depuis le début, il y a des doigts d'honneur, il y a des petites insultes, mais là, on sentait qu'il y avait eu autre chose.
Ok. Merci Alex pour toutes ces précisions. Et vous avez tout cela sur l'appli
RMC Sport. C'est quand même fatigant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, ça c'est terrible, surtout pour une rencontre amicale entre streamers où tout est là pour se faire plaisir, la fête du sport comme ça, et une bonne action au départ. Merci Alex, à bientôt en tout cas.
Salut tout le monde, ciao.
Toutes ces infos donc sur rmcsport.fr. 20h45, on revient dans un instant avec Coach Courbis, on est là jusqu'à 21h. On va parler de l'Italie. L'Italie qui est en tête de notre groupe de Ligue des Nations. La première place du groupe 2. On en parlera avec Johan Crochet, notre drôle de dame italienne. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h47 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h. Ensuite, grande soirée rugby avec ce match de top 14 entre le Stade Toulousain et la SM Clermont. Le retour d'Antoine Dupont sur les pelouses du top 14. Vous suivrez tout ça sur RMC dans l'After Live. Mais donc, on parle de foot jusqu'à 21h. Et Roland, on file tout de suite en Italie retrouver Johan Crochet, notre drôle de dame italienne. Salut Johan.
Salut Benoît, salut coach, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Johan.
Bon, Johan, c'est l'homme qui rit au sein des drôles de dames parce qu'ils sont en tête de notre groupe de Ligue des Nations, les Italiens. Ils auraient pu avoir plus de points d'avance.
Bah oui, donc ils sont en tête, mais.
Et c'est ça qui est fou, c'est que.
Ils sont quand même en tête.
C'est ça, ils auraient pu espérer mieux, ils auraient mérité deux points de plus. Malheureusement, ils ont concédé le match nul jeudi face à la Belgique. Ils menaient 2-0, puis il y a eu ce carton rouge très bête pour Pellegrini qui les a plombés, hein, Johan.
Ouais, premier du groupe, content, mais surtout après le match contre la Belgique, très frustré.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça qui ressortait des analyses à la fois de Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, mais aussi des joueurs en zone mixte et après auprès du diffuseur, la RAI en Italie, parce que pendant 35-40 minutes, c'est assez simple le déroulé du match, c'est-à-dire que l'Italie marche sur la Belgique, qui c'est n'existe fou, pas, ne crée rien, perd beaucoup de ballons, ne s'approche pas des buts de Donnarumma. L'Italie se crée des occasions, joue très bien en plus pour le coup. Il y a des buts avec des constructions collectives de grande qualité où le ballon passe de Tonali à Di Marco, de Di Marco à l'autre latéral, de l'autre latéral, ça arrive sur l'attaquant. Bref, c'était vraiment une sorte de grande répétition de football qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Italie. Et puis, effectivement, sur une relance mal assurée par Bastoni, qui ne voit pas que Pellegrini recule plutôt que vient vers lui et il se fait devancer. Et quand il se fait devancer, il essaie de récupérer en taclant et il prend un carton rouge. Donc, à partir de ce moment-là, le match change évidemment totalement. T'es presque content, finalement, d'arracher le match nul de 2. Parce que...
moment, je pensais qu'ils allaient perdre 3-2.
Ouais, Roland. Et en plus, pour le coup... l'ami Bastoni, il a eu de la chance avec le VAR parce que on a encore du mal à comprendre aujourd'hui comment un penalty n'a pas été accordé à la Belgique, ce qui aurait donné évidemment le coup de grâce aux Italiens. Donc frustré parce que t'avais un tel sentiment de domination sur la Belgique pendant les 40 premières minutes que concéder le match nul, c'est frustrant, mais à la fois quand même un petit soupir de soulagement parce que dans cette deuxième période, même si sincèrement ils ont très peu concédé aux Belges. Ils avaient le ballon, les Belges, il n'y a pas de problème. Ils contrôlaient le cuir, la possession. Mais il y avait une espèce de tendance à toujours aller chercher le joueur de côté pour d'un contre un côté belge.
Ah, Spalletti a dit, on a joué contre des fusées. En fait, les mecs faisaient que ça. Des bordements.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Doku, évidemment. Ensuite, Luke Bacchio qui est rentré. Donc, il y avait toujours cette idée de mettre des deux contre un, des un contre un. Mais comme l'Italie, justement, venait fermer avec un deuxième joueur, ces joueurs de côté, ils ont fait très peu la différence. Et hormis des coups de pied arrêtés, les Belges, ils ont eu du mal à se créer des occasions. Donc, sentiment un peu contrasté après ce match nul contre la Belgique.
Il y a une vraie force qui se dégage, Roland. Et ce qui est dingue, c'est que le déclic s'est peut-être déroulé en France au Parc des Princes avec cette victoire contre les Bleus. C'est ce milieu de terrain qui est impressionnant en Italie. Toi qui as regardé le match jeudi, le scénario est plombé, mais au milieu de terrain, il y a une certaine force collective en Italie.
Là, si tu veux, quand on regarde jouer l'Italie et quand on regarde jouer notre équipe de France depuis quelques temps, on se dit que ça sera quand même très, très compliqué pour notre équipe de France. Et cette équipe d'Italie, ce qui est quand même un petit peu logique, après une période de vache maigre, même si au milieu il y a eu
l'euro gagné,
un titre d'euro gagné, ça fait rien. Je suis pas surpris que à nouveau l'équipe d'Italie ressemble à une très bonne équipe de football.
Et Johan, est-ce qu'on commence un peu à s'enflammer en Italie ou est-ce qu'on reste prudent? C'est un pays de dingo de foot. Est-ce qu'on se dit ça y est, on est en train de renaître sur la scène internationale?
Non, s'enflammait pas trop parce qu'on n'oublie pas qu'il y a trois mois, c'était la déprime totale après un euro totalement raté.
C'est vrai.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Fratesi, qui était en conférence de presse aujourd'hui avant le match contre, alors c'est pas la veille du match, mais l'avant-veille du match contre Israël, disait, pendant l'euro, on a oublié de s'amuser. Et c'est le sentiment que partageait à la fois l'entraîneur qui, après l'euro, a expliqué, j'ai peut-être mis trop de pression sur mes joueurs. J'ai peut-être voulu changer trop de choses, j'ai voulu mettre trop de choses en place, trop de choses compliquées pour lesquelles on n'avait pas le temps de travailler et de les mettre en place.
C'est vrai, il a dit. Ouais.
Et Fratesi a encore confirmé ça aujourd'hui en disant, bah là, on s'amuse, on a des sourires, on plaît à être, ça nous plaît d'être tous ensemble.
On s'est rappelé que jouer au football, c'est jouer. Au football, c'est s'amuser.
C'est ça. Exactement, et il s'était pas beaucoup amusé à l'euro, donc non, Benoît, il y a pas de... Dans Flamade, il y a le plaisir de retrouver quand même une qualité de football qu'on avait connue sous Roberto Mancini pendant plusieurs saisons, allant jusqu'à ce titre de champion d'Europe, de voir des joueurs qui s'affirment aussi, parce que j'écoutais les débats un peu sur RMC dernièrement, où beaucoup de consultants regrettaient l'absence de nouveautés un peu en équipe de France.
Ouais.
Dans la sélection italienne, on n'est vraiment pas là-dessus. Il y a pas mal de nouveautés et on teste pas mal de joueurs. Rendez-vous compte que depuis que Spalletti est arrivé à la tête de cette sélection, donc il y a un petit peu plus d'un an, il a déjà testé plus de 50 joueurs.
Ouais. Et d'ailleurs, tu fais bien de nous rappeler tout ça. Et pourtant, il disait que le réservoir n'était pas si important. Et c'est lié à ce que je vais dire, c'est que tu voulais nous parler de Retegui, qui est un peu le symbole de tout ça, parce que c'est l'attaquant qui est en train d'émerger. C'est vraiment une drôle de trajectoire que tu vas nous raconter. Il est argentin au départ. Il a joué un peu, je crois d'ailleurs, avec les équipes de jeunes d'Argentine, naturalisé italien. Et c'est la belle histoire de ce rassemblement d'ailleurs, Johan.
Ouais, et puis au-delà même de ce simple rassemblement, c'est la belle histoire de cette dernière année et demie. Il n'y a pas eu quand même beaucoup de belles histoires du côté de l'Italie pendant ces 18 derniers mois, mais en tout cas, du côté de Retegui, évidemment que c'est une histoire qui est un peu folle, parce que lorsqu'il jouait en Argentine, c'était un bon attaquant, mais on n'était pas sur un phénomène où on voit des joueurs aujourd'hui qui à 18 ans, 19 ans sont recrutés par Manchester City, sont pistés par le Real, par le Barça, par le Bayern, la Juve et tous les gros clubs. Lui, c'était pas le cas et c'était pas son cas en tout cas. Et quand Roberto Mancini l'a découvert, l'a regardé jouer, il a ce talent-là, Roberto Mancini. Il est pas souvent indiqué dans les plus grands entraîneurs parce que bon, il y a eu des expériences plus ou moins réussies, il y a eu des aventures plus ou moins bizarres, des choix en tout cas de carrière un peu étranges, mais il a en tout cas cet œil-là pour reconnaître assez facilement et assez rapidement si un joueur peut l'intéresser pour son projet de jeu. Et Retegui, il l'avait dépisté très très tôt, et il l'a fait venir alors qu'il joue encore en Argentine, il a commencé en sélection nationale alors qu'il traversait déjà l'océan Atlantique, et ça a bien marché assez rapidement. Alors Retegui, c'est pas le neuf le plus...
Comment il va dire
ça? Le plus élégant, le plus complet, le plus capable à la limite de jouer avec ses coéquipiers. Par contre, quand il y a un ballon dans la surface, bah, ça ressemble un peu plus à un neuf à l'ancienne, même s'il est en train de progresser, parce que, entre temps, il est arrivé au Genoa en Serie A, il est passé à l'Atalanta cet été parce que, son concurrent principal en sélection nationale s'est blessé à l'Atalanta. L'Atalanta a donc fait venir Retegui.
C'est fou.
Skamak, l'attaquant de l'Atalanta, s'est gravement blessé. Il ne rejouera pas avant encore quelques mois. Et il a donc progressé aussi avec Gasperini. Gasperini, vous savez, c'est un des entraîneurs qui fait le plus progresser ses joueurs. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, Retegui est indispensable à la sélection nationale.
Est-ce que tu penses, excuse-moi de te couper, que les deux pourraient ou auraient pu jouer ensemble?
Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que
deux vrais neufs, quoi.
Ouais, j'ai du mal à les voir.
C'est des neufs quand même différents. Mmh.
C'est des neufs un peu différents. Disons que Skamaka est un peu plus capable dans le jeu associatif avec les autres. Et Retegui est un peu plus capable pour le coup pour aller en profondeur, pour prendre la profondeur.
Moi, je te dis sincèrement, j'aurais bien aimé, en tant qu'ex-entraîneur, j'aurais bien aimé les avoir tous les deux. Et ben, je pense que je me serais débrouillé pour les faire jouer tous les deux.
Ah, voilà. Parce qu'il y a aussi autre chose, Roland, c'est que si tu fais ça, t'as pas 50 systèmes possibles. Soit tu fais un 4-4-2, soit tu passes à une défense à 3 en oubliant les joueurs de côté, les ailiers et en ayant un joueur plus central, mais quoi qu'il arrive, ça t'enlève un milieu de terrain.
Oui, mais dans les calculs que je fais, je t'ai pas dit non plus que j'avais comme idée, si j'avais pu avoir la chance de les avoir, que j'avais comme idée de les faire jouer tous les deux 95 minutes.
Bien sûr.
Non, je dis une partie du match, les 30 dernières, les 45 dernières en deuxième période, suivant un petit peu les événements. Je pense que il y a une petite différence, et tu sais très bien, je t'apprends rien, que quand il y a un petit peu cette différence, ben on est souvent complémentaires. Et je pense que ce duo, même qu'une partie du match, aurait pu être, on sera peut-être un duo très rude.
Mais tu sais, Roland, en plus, c'est des joueurs qui sont très capables dans le jeu aérien. Et quand tu vois notamment, quand les côtés sont animés par Di Marco et Cambiaso, comme c'était le cas contre la Belgique, tu te dis aussi que sur des parties de match, comme tu l'as expliqué, où parfois il faut aussi revenir au score avec un jeu un petit peu plus direct, quand tu as la qualité de centre de Di Marco, de Cambiaso, et que tu as des joueurs capables comme ça dans le jeu aérien, ça peut aussi effectivement te donner d'autres perspectives.
Ben oui.
En tout cas, une autre stratégie en cours de match.
Bon, eh ben écoute, on suivra tout ça. Mais on est content de revoir nos amis italiens à un très bon niveau et on les suivra.
Ce soir, c'est créé un duo italien. Attention, les dégâts que ça va faire.
Ouais. En plus, tu parles très bien italien, Roland.
Ah ben évidemment.
C'est ça. Évidemment.
Pronto.
Ouais, tu
Ti rendi conto.
Ti rendi conti. Bon, merci Roland, tu nous as régalé. Merci Johan, on est content aussi de voir que tu retrouves le moral avec cette sélection italienne. On la suivra dès lundi, elle sera un débrief à suivre dans l'after. Dans un instant, grande soirée de rugby, je le disais, 20h58, le Stade Toulousain et un certain Antoine Dupont qui sera là dans le groupe ce soir de Toulouse affronte la SM Clermont. L'after live avec Thibaut Giangrande, avec Lénaïc Corson. Donc, grande soirée de rugby, restez sur RMC, bonne soirée.
RMC, l'After Live.